BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour vos deux heures d'expertise liées au monde de vos placements. Mais avant de plonger dans le monde de votre épargne, on s'intéresse à l'actualité économique ce matin avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Peu de perturbations dans les transports aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 11e. Ces perturbations sont limitées au TER avec un train sur deux en circulation, 3 sur 4 pour les TGV. À la RATP, trafic quasi normal. Hier, la réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux n'a rien donné. Chacun campe sur ses positions et pas question pour les syndicats d'avancer sur d'autres sujets tant que la réforme n'est pas retirée. Emmanuel Macron reçu pour un entretien en tête-à-tête en ce moment même à Pékin par Xi Jinping pour la deuxième journée de sa visite. Visite d'État en Chine, l'un des enjeux, convaincre Pékin d'user de son influence sur Moscou pour amener la paix en Ukraine, rester officiellement neutre pour l'instant. Le président chinois s'était rendu à Moscou il y a 15 jours pour réaffirmer son alliance avec la Russie. Pékin qui montre les dents après l'entretien entre la présidente de Taïwan et le speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis hier. Tsai Ing-wen a salué d'ailleurs le soutien d'effectifs de Washington. Et bien en réponse, la Chine a envoyé aujourd'hui des navires de guerre près de Taïwan après avoir développé un porte-avions et promet ce matin une réponse ferme et énergique. Également dans l'actualité, cette bonne surprise pour l'Allemagne. La production industrielle progresse plus que prévu en février, plus 2% sur un mois, largement portée par l'automobile. Selon les chiffres de Delsatis, l'Institut statistique fédéral, le secteur est moins impacté par les problèmes d'approvisionnement qui ont plombé à la croissance de l'automobile l'an dernier. Pas de bonus ni de primes pour les plus hauts dirigeants de Crédit Suisse. Le gouvernement suisse vient de les supprimer. Ça concerne les sommes dues jusqu'à fin 2022, soit 50 à 60 millions de francs suisses. Toutes les rémunérations variables dues cette année sont également supprimées. C'est une exigence en compensation des aides publiques qui ont été versées. La voiture à hydrogène du français Opium va-t-elle voir le jour? En tout cas, ce matin, la start-up annonce qu'elle va travailler en priorité sur le développement de sa pile à combustible qui promet, elle, des revenus à court terme. Quant à la voiture, la Machina, présentée comme une Tesla hydrogène à la française, eh bien, le premier prototype est attendu pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine. Les finances de la jeune pousse sont très tendues et son cours de bourse a littéralement dégringolé. Boeing reprend les livraisons des 767, ses gros porteurs de taille moyenne, après une pause de 3 mois. Une pause qui avait été provoquée par la découverte d'un défaut de fabrication sur les réservoirs de l'un de ses fournisseurs. Et on termine avec Total Energy qui élargit momentanément le blocage des prix à 1,99€ par litre d'essence. C'est une mesure qui va s'appliquer également à la gamme des produits Premium Excellium jusqu'à ce que les stations-services ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve à 11h bien sûr pour suivre cette actualité économique et nous on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve Antoine Larrey-Gaudry depuis le siège de Ronex à La Défense. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les marchés?
Bonjour,
on rappelle
Cédric.
Que c'est la dernière séance de la semaine.
Dernière séance de la semaine, effectivement, il n'y a pas de séance demain ni lundi, hein, d'ailleurs pour cause de week-end de Pâques, long week-end de 4 jours, ça faisait quand même quelques années hein, que ce n'était pas arrivé, ça va faire du bien à tout le monde, ça va permettre de digérer aussi les mauvaises nouvelles, parce que en termes de mauvaises nouvelles concernant l'économie américaine, hier, on n'est quand même pas loin d'un record. ISM décevant, surtout l'ISM des services hein, qui recule bien plus qu'attendu. On a des prévisions de croissance de la Fed d'Atlanta, qui est celle qui est le plus au fait hein, des indicateurs avancés de l'économie américaine pour effectuer des prévisions de croissance, qui a été revue en baisse, mais alors de 3,5% à 1,5% pour le trimestre en cours. On a des indicateurs qui commencent à s'affoler du côté des anticipations de taux qui disent non, la Fed va être obligée de faire statu quo ces deux prochaines réunions et peut-être même commencer à baisser ses taux après. On commence encore à avoir des mauvaises nouvelles du côté du secteur bancaire intermédiaire. C'est celui qui pose problème du côté des États-Unis. Il y a deux banques qui posent des difficultés et notamment Charles Schwab qui avait bien résisté jusque-là. Une banque qui s'est est aussi spécialisé dans la high-tech et les cryptos du côté de la finance américaine. Donc voilà, un amoncellement de mauvaises nouvelles et parallèlement des nouvelles bien meilleures du côté de l'Europe. Et Faïsa vous en a parlé, la production industrielle allemande qui était une excellente surprise là pour le coup, c'était totalement inattendu. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur le plan du marché obligataire? On a un vrai écartement des spreads, hein, des écarts de taux des 10 ans entre l'Amérique et la zone euro. On voit que ça recule du côté des 3,3% et même en dessous pour la dette américaine 10 ans. On était encore à 4% il y a un mois, donc la correction est violente, alors que ça se tend légèrement côté européen. Et ça va être une véritable dynamique à suivre parce que ça fait grimper l'euro, bien évidemment. Ça contribue à la faiblesse du dollar dont on parle depuis un petit moment, hein. L'once d'or fin est toujours proche de ses plus hauts historiques. Mais justement, ça va peut-être poser problème au marché américain, alors que le marché européen va devenir un petit peu plus compétitif et peut-être plus porteur. Donc c'est peut-être ce qui soutient les indices ce matin, avec un CAC 40 donc qui gagne 0,29%. On remonte à 7337 points, alors qu'en avant-marché, on était plutôt inchangé, voire en légère baisse. Le paradigme a vraiment changé. Plus 0,26% pour l'Eurostock 50 et plus 0,2%, 0,36% là à l'instant, pour le DAX à Francfort. La plus forte hausse du CAC 40 à Paris, elle est pour BNP Paribas, le secteur bancaire européen qui continue sa relance, plus 1,97%. On est à 56,93€. On a Unibail Rodamco Westfield, hein, qui est en hausse d'1,8% à 49,30€. Le titre se rattrape un peu, mais a connu des séances très difficiles à cause de la volatilité sur les taux d'intérêt. On a Total Energy qui grimpe d'1,4% à 57,97€. Et puis, un petit peu de techno aussi, ST Micro qui gagne 1,4% à 46,30€, entre autres. Sinon, à la baisse, l'ensemble du secteur du luxe, bah oui, comme les taux sont tendus en Europe, détendus du côté des États-Unis, ça, c'est pas bon pour les valeurs de croissance européennes. Et le luxe, évidemment, à Paris. Kering, moins 1,93. On est à 554,60€. L'Oréal, moins 1,82€ à 416€. Et LVMH, moins 0,9% à 837,70€. C'est aussi des prises de profit. Hein. Ce sont des valeurs qui ont bien, bien grimpé ces 10 derniers jours. Le CAC, donc, plus 0,28, 7336 points. Et l'euro, 1,0906, Cédric.
Merci, Antoine. On vous retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette séance. Et nous, on reste connectés au marché actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Denis Scherrer nous attend chez IDEMI de Cap. Bonjour Denis.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accompagner en ce jeudi pour parler de Trigano. Pourquoi ce choix ?
Oui Cédric, aujourd'hui on voulait parler de Trigano. Alors pas besoin de présenter trop la société, hein, très connue, qui est le leader en Europe des camping-cars. Mais donc si on voulait vous en parler, c'est parce que c'est une de nos valeurs favorites, compte tenu à la fois de la visibilité que le groupe a sur son activité grâce à son carnet de commandes, de son bilan très solide et de multiples de valorisation qui sont historiquement bas. Et le groupe a publié il y a quelques jours son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, un chiffre d'affaires qui a conforté notre opinion et qui a confirmé notre scénario prévisionnel en fait.
Justement, alors, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de ce que vous prévoyez?
Oui, alors justement, le deuxième trimestre a montré un retour de la croissance organique, ce qui était vraiment ce qu'on attendait, après un premier trimestre qui était en baisse de moins 8% en organique. On est à plus 8% en organique au deuxième trimestre, et même à plus 14% sur la partie camping-car. Donc le retour à la croissance organique se confirme, et ça permet d'envisager un second semestre qui devrait être encore meilleur, puisque pour l'instant c'est surtout l'effet prix qui a permis de faire cette croissance au deuxième trimestre, et au second semestre c'est l'effet volume qui devrait s'accélérer, puisque si on rappelle un petit peu la situation, le groupe a un carnet de commandes qui est plein pour l'ensemble de l'année, et finalement le seul frein à sa croissance c'est le problème des approvisionnements en châssis, un problème qui est en voie de résolution et qui devrait permettre au groupe donc d'accélérer sa production tout au long du second semestre, ce qui fait que sur l'ensemble de l'année on attend une croissance organique de près de 7,5% et une croissance globale du chiffre d'affaires de plus de 10%.
Et pour l'avenir, ouais, justement, parce que c'est important de regarder un petit peu les perspectives et la façon dont le marché les appréhende également.
Oui, bien sûr. Alors en fait, nous, on a retenu pour l'instant un scénario assez conservateur, je dirais, Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe de ralentissement. Les derniers salons d'automne se sont bien passés. Mais compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et d'une consommation qui est en berne depuis quelques mois, nous, on a préféré prendre un scénario de baisse, d'une légère baisse du chiffre d'affaires en 2023-2024. On ne serait pas dans un scénario de crise comme en 2008 parce que il n'y a pas eu de surproduction et les stocks ne sont pas très importants chez les concessionnaires. Mais donc nous, on anticipe plutôt un ralentissement du chiffre d'affaires l'an prochain, alors que le consensus est beaucoup plus agressif et anticipe toujours une poursuite de la croissance, en fait.
Mmh. Et du coup, d'ailleurs, ça a alimenté un petit peu nos échanges en préparant cette émission parce que votre objectif de cours est beaucoup plus conservateur que celui du consensus, hein.
Oui, effectivement, nous préférons avoir un scénario plus conservateur et donc un objectif de cours qui se situe à 138 euros, alors que je crois que le consensus est plutôt au-dessus de 260 euros. Mais malgré tout, avec un scénario prudent, au vu des multiples qui sont vraiment historiquement bas, avec un PER par exemple qui est inférieur à 10 largement, puisqu'on est autour de 8 fois, on pense qu'il y a quand même du potentiel sur le titre, puisqu'on a un potentiel de l'ordre de 17% sur la valeur.
Eh bien voilà quelques idées à avoir sur ce dossier Trigano, défendu depuis des mid-cap par Denis Scherrer. Merci beaucoup Denis, bonne fin de semaine sur le marché. Le CAC 40, lui, continue de grappiller quelques points, plus 0,32, 7339 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et l'on retrouve Christopher Dembick qui nous attend chez Saxo. Bonjour Christopher.
Bonjour Cédric.
On a besoin de votre lecture des derniers chiffres américains. Plutôt quoi ? Mauvais, en demi-teinte ? Enfin, comment vous les avez lus ?
Plutôt positif dans le sens où finalement, ça fait quand même des mois qu'on attend une économie qui décélère un peu pour avoir une baisse un peu plus accentuée des pressions inflationnistes. Je vous rappelle qu'on aura les chiffres d'inflation pour le mois de mars, donc la semaine prochaine, qui vont être publiés aux États-Unis. Donc avoir une économie qui décélère effectivement dans les services, dans le secteur manufacturier, l'enquête ADP encore qui a montré qu'on a effectivement des créations d'emplois qui décélèrent, c'est un peu ce qu'on attendait depuis un moment. Donc bien évidemment, ça crée de l'incertitude sur du court terme, ça va créer un peu d'arbitrage, on le voit aussi au niveau des flux en termes d'investissement, ça crée de l'incertitude sur la politique monétaire, mais finalement c'est un peu ce qu'on attendait, qu'on ait cette décélération économique, surtout qu'on n'est pas sur un scénario de récession, hein, il faut bien le voir, c'est plutôt une croissance qui va effectivement ralentir assez nettement. Il va falloir attendre les chiffres de l'emploi américain qui sont publiés bien sûr vendredi pour faire un peu l'arbitre, savoir notamment est-ce qu'on est au-dessus des 200 000 créations d'emploi, ce qui voudrait dire quand même qu'à l'instant T, la dynamique de l'emploi, elle reste malgré tout très bonne comparativement, et surtout bien sûr voir les pressions sur les salaires qui restent un peu l'arbitre aussi à regarder d'assez près sur les pressions inflationnistes.
Quand on reçoit des chiffres macro, hein, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, le réflexe est le même, c'est de les digérer et de les passer au prisme de la banque centrale, donc BCE chez nous, Fed là-bas. Qu'est-ce que justement ces chiffres que vous venez de passer en revue nous disent, ou en quoi peuvent-ils influencer la politique monétaire?
Alors si on regarde les attentes du marché, hein, le rendez-vous ça va être effectivement plutôt le mois de mai, la grande question c'est est-ce qu'on aura une hausse de taux ou pas, l'ampleur c'est soit 25 points de base, soit une pause. Alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'il est bien sûr trop tôt et plusieurs membres de la Fed l'ont souligné, on a encore beaucoup de chiffres qui vont tomber donc on peut pas avoir décision, les chiffres tout simplement de vendredi vont aussi être importants à cet égard. Et surtout les banques centrales nous réservent très souvent des surprises, hein. Juste cette semaine, alors c'est un peu loin de chez nous, mais l'Australie a finalement posé sa politique monétaire alors qu'on attendait une hausse, et à l'inverse, la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas beaucoup de banques centrales cette semaine, a augmenté plus ses taux que prévu. Donc il y a quand même un ajustement à voir. De mon point de vue, la possibilité d'une pause de politique monétaire au mois de mai, c'est quand même assez exagéré. Avec les indicateurs qu'on a en notre possession aujourd'hui, ça peut évoluer, mais je vois pas une dégradation économique en l'espace d'un mois qui soit magistrale. Donc à mon avis, le processus d'hausse de taux va perdurer, parce qu'on a une inflation qui reste à 6% sur un an, si on regarde de l'indice des prêts à la consommation. Mais la question va plus se poser, soit donc au mois de juin, soit éventuellement à la rentrée de septembre, de savoir quel va être l'état réel de l'économie. Mais Indéniablement, les anticipations du marché, vous le savez, sont souvent erronées. Et même si j'ai pas une certitude à 100% pour le mois de mai, je doute en tout cas qu'on ait des baisses de taux cette année, comme l'anticipe le marché.
Merci beaucoup, Christopher. Christopher Dembick, Saxo Bank, ce matin avec nous, le marché parisien, qui grappille quelques points. On progresse de 0,32%, 7339 points.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cardoroy.
Bonjour Cédric.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'une opération inédite que se prépare à lancer le plus grand réseau d'agences immobilières en France, Orpi, qui met en place un pacte anti-inflation. Quel est leur but ?
De réussir à convaincre nos chers amis vendeurs d'accepter que les prix, ils ont baissé.
Ah.
Ça, c'est compliqué. Effectivement, c'est une initiative, je trouve, qui donne la mesure de l'ampleur du blocage qu'on a en ce moment sur le marché de l'immobilier ancien. Alors, justement, on va regarder les derniers chiffres d'Orpi pour bien expliquer, illustrer pourquoi il y a une telle initiative. Après, je vous parlerai de cette initiative précisément. Donc, d'abord, le marché, c'est quoi ? C'est, au premier trimestre chez Orpi, 25% en moins de compromis sur le premier trimestre de cette année par rapport à celui de l'année dernière. 25% de compromis en moins, mais des prix qui ne baissent que d'1% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc on voit bien effectivement cette corrélation et on la voit encore mieux quand on regarde dans le détail. C'est-à-dire que l'exemple, moi j'ai trouvé le plus flagrant dans les chiffres d'Orpi, c'est Brest. On a un nombre de compromis qui dégringole de 30% sur un an et parallèlement, non seulement à Brest les prix ne baissent pas, mais ils augmentent encore. On est en hausse de 10% à Brest. Donc, on voit que le nombre de compromis dégringole, les prix ne baissent pas, même pire, ils augmentent. Pareil du côté d'autres villes comme Cannes, où on a des prix qui grimpent encore de 14%, mais des compromis qui baissent de 27%. À Marseille aussi, où on a dit qu'il y avait quand même un effet rattrapage à Marseille, où les prix avaient longtemps été très 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 bas. Là, on a des prix qui augmentent encore de 6%. Et résultat, on a des transactions qui baissent de 32%. Donc vous voyez cette corrélation entre le niveau des prix et le niveau des transactions.
Mais est-ce que, Marie, c'est là où, à l'inverse, les prix vont commencer à baisser, les ventes se maintiennent ?
C'est ça, tout l'enjeu, c'est de se dire, si mes prix continuent à augmenter, les transactions baissent. Est-ce que là où il y a déjà des corrections, le marché de l'immobilier reste dynamique ? Force est de constater que oui, on a de vrais exemples. À Rennes, par exemple, baisse des prix de 14% quand même sur un an. Les ventes, elles progressent de 8%. À Metz, c'est la même chose, des prix en baisse de 13%, des ventes en hausse de 9%. Alors évidemment, il y a des exceptions. En l'occurrence, vous allez voir Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux. Là, les prix, ils baissent. Et en plus, le nombre de compromis baisse aussi. Alors bon, il faut bien voir aussi que, est-ce que ça veut dire que la correction n'est pas suffisante, que c'est les villes les plus chères ? Il y a quand même une réalité sur la corrélation quand même sur le pouvoir d'achat.
Et ce pacte, alors, c'est quoi ?
Justement, c'est de dire on est tous concernés, en fait. Vous ne voulez pas baisser vos prix, vous n'allez pas vendre. Alors du coup, on va vous montrer que nous aussi, on a parfaitement conscience de la situation. Et donc, qu'est-ce que dit le réseau Orpi ? On va lancer la semaine prochaine ce pacte anti-inflation, un mandat spécifique qui dit aux vendeurs qui acceptent de baisser de 6,3% au moins leur prix pour le logement qu'ils mettent en vente, l'agent immobilier en face acceptera lui aussi de baisser ses honoraires, sa commission du même niveau, c'est-à-dire de 6,3%. Alors vous allez me dire pourquoi 6,3%? Parce que c'était le pic d'inflation atteint en février et c'est à ce moment-là que le patron Guillaume Martineau, le patron d'Orpi, a décidé de cette initiative. Alors oui, c'est une opération de com sur le papier, mais en l'occurrence, c'est assez révélateur de l'état du marché.
Quand la com est bien faite et pédagogique, c'est sympa aussi.
Et puis surtout, c'est se dire, maintenant on n'arrive plus, malgré toutes nos capacités, nos compétences, à convaincre les vendeurs qu'il faut aligner les prix sur le pouvoir d'achat qui s'est érodé pour les acheteurs. Il va falloir les convaincre d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler parce que l'une des raisons pour laquelle on a perdu du pouvoir d'achat, c'est aussi à cause de la hausse des taux d'intérêt, évidemment.
Elle fait les choses si bien, Marie Cardoroy. Ouais. On accueille Julie Bachet, bonjour.
Bonjour.
Pour vous financer, où en sont donc nos taux ? Toujours à la hausse ?
Ah oui, ils sont très très clairement à la hausse. On a reçu effectivement beaucoup de barèmes, on est en début de mois, donc les banques revoient leurs barèmes souvent à ce moment-là. On a reçu plus de barèmes que d'habitude. Tous en hausse, avec des hausses assez conséquentes, puisque ça va de 0,10 à 0,50. Et pour la première fois depuis très longtemps, on a même des taux affichés à plus de 4% pour certaines banques.
C'est un sacré symbole, hein, ça, Julien, les 4%. Hein.
Oui, ben, c'est surtout que ça veut dire qu'on est quasiment à x3 par rapport à il y a 15 mois, par exemple. Hein. Donc, on est sur des taux. Alors là, on est sur 25 ans, sur les revenus les plus faibles, mais 4%, c'est pas neutre, oui.
Et puis surtout, là, effectivement, c'est, entre guillemets, une banque qui dit ça. Mais ce qu'on sait, et ce que vous nous dites chez vous financer, mais d'autres courtiers aussi, c'est que de toute façon, on va aller... j'allais dire doucement, non pas doucement, mais sûrement, sur les 4% de taux moyens d'ici quelques temps là.
Ben c'est même un peu plus rapide que ce qu'on pensait, puisqu'effectivement nous on avait anticipé un taux à 4 à l'été, je dirais même la fin de l'été. Finalement on voit qu'on est à peine au début du printemps et on commence à avoir du 4, donc qui ne peut pas être proposé parce que le taux d'usure étant à 4,24, ça ne passerait pas. Mais clairement le taux moyen sur 25 ans étant à 3,50, fatalement le 4 il va arriver assez rapidement.
Mais du coup moi j'ai une question, on avait beaucoup dit justement les banques, bah, elles bloquent parce que le taux d'usure, maintenant on voit qu'elles font exprès entre guillemets de proposer des taux qui de toute façon ne passeront pas le taux d'usure. C'est quoi la stratégie des banques là? C'est dire on prête plus là?
C'est une question qu'on se pose assez souvent en ce moment, effectivement. Je pense que parfois les banques se la posent aussi et il n'y a pas une stratégie vraiment commune. C'est un peu propre à chaque établissement bancaire et c'est souvent en lien avec les liquidités qu'elles ont actuellement, parce qu'elles prêtent aussi sur la base des liquidités qu'elles ont. Il y a eu beaucoup de décollectes, ce qui veut dire que beaucoup d'établissements et notamment de mutualistes ont des difficultés aujourd'hui à pouvoir continuer à accompagner sur le crédit. Donc ils vont sélectionner. Il y a moins de capacité de prêt au niveau des banques et donc effectivement on va aller privilégier certains profil, moins risqué, avec plus de revenus.
Enfin là c'est l'enfer, c'est-à-dire que là c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on a des banques qui veulent plus prêter ou alors que difficilement on a des exigences en termes d'apport personnel, la fameuse épargne résiduelle qu'il faut en plus. Enfin, faut avoir quel profil aujourd'hui pour décrocher un crédit immobilier quoi.
Alors, c'est vrai que pour trouver la banque qui va permettre d'accompagner un profil, il est vraiment aujourd'hui, je vais prêcher pour ma paroisse, mais d'aller voir un courtier qui sait effectivement quelles sont les conditions de toutes les banques, puisque toutes n'interviennent pas sur les mêmes profils. Il est effectivement souhaitable d'avoir de l'apport. Les banques vont plutôt avoir des taux plus favorables pour les personnes qui ont le plus de revenus, qui vont avoir un dossier qui sera le moins risqué, puisque le risque coûte aussi dans la ressource. Et donc, s'il n'y a pas d'apport, qu'il n'y a pas beaucoup de... que l'endettement est au maximum, que les revenus sont fragiles, peu d'ancienneté, etc., la banque va être effectivement beaucoup moins volontaire pour accompagner probablement l'accession. Oui.
Mais alors du coup, alors qu'on n'arrête pas de dire que c'est la faute du taux d'usure, maintenant ça bon, c'est à moitié réglé, on va pas y revenir, mais maintenant c'est la faute du Haut Conseil de Stabilité Financière, machin, en fait...
Il n'y a pas une seule faute. Je pense qu'il y a malheureusement une conjugaison en ce moment d'un certain nombre de facteurs qui rendent l'accès au crédit difficile. Il y a quand même ce sujet de taux d'usure qui a vraiment handicapé très fortement sur la fin du second semestre 2022 l'accès au crédit. Ça reste toujours un sujet. On voit qu'il a augmenté de plus de 1% en l'espace d'un trimestre. Donc finalement, heureusement qu'on a quand même eu cette révision mensuelle. Sinon, on aurait été très sérieusement bloqué. Mais il n'y a pas que le sujet du taux d'usure. Il y a le sujet, vous l'avez dit, de ces prix qui ne baissent pas vraiment. Et en revanche, quand le taux d'intérêt augmente très fortement, la capacité d'emprunt, elle baisse. Et donc, on se retrouve avec des gens qui voudraient acheter et qui ne peuvent plus parce que leurs revenus ne leur permettent pas, soit sur les durées qui sont proposées, soit avec l'endettement maximum, de pouvoir accéder à la propriété. Il y a quand même effectivement ces règles. Quand les taux augmentent comme ça fortement et que le marché ne suit pas, une des options, c'est quand même de rallonger la durée du prêt, puisque quoi qu'il en soit, même si c'est au bout de 30 ans, il est quand même souhaitable et préférable d'être propriétaire dans 30 ans que de rester locataire toute sa vie. Donc, il va falloir que ça agisse à plusieurs niveaux, baisse des prix, assouplissement.
Alors justement, pour revenir sur les assouplissements dont certains parlent là, sur les règles du Haut Conseil, donc on rappelle, pas plus de 25 ans sur les durées d'emprunt, pas plus de 35% de taux d'endettement, bon, avec 20% de dérogation. Est-ce que vous croyez réellement que ça peut, enfin, un assouplissement de ces mesures-là peut faire bouger les choses et le marché du crédit aujourd'hui? D'autant qu'en plus, visiblement, sur cette marge de dérogation qu'ont les banques aujourd'hui, bah, elles y sont même pas. En fait, donc...
Elles n'y sont plus, vous avez raison. Avant que ces normes deviennent contraignantes, la souplesse des 35% d'endettement et des plus de 25 ans, c'était 30% de la production des banques. Aujourd'hui, elles peuvent faire 20% et c'est 14%.
Donc, en réalité, elles ne saisissent même pas l'opportunité d'aller au-delà des bornes, quoi.
Non, elles ne le font pas.
Ou elles n'osent pas.
Non, mais je pense que c'est surtout lié au fait que si c'est plus de 35% d'endettement, ça veut dire qu'on est sur un dossier qui est plus risqué, parce que ça veut dire que c'est un petit peu court probablement en revenu, et du coup c'est pas les dossiers qu'elles ont envie de faire en ce moment, parce que en plus dans le coût du crédit pour elles il y a le fameux coût du risque, et si on est sur un dossier plus risqué, eh ben on est sur un dossier qui demande plus de ressources au niveau de la banque et qui est plus consommatrice de fonds propres aussi. Donc Moi, je pense qu'un rallongement de la durée, ça pourrait quand même être une solution qui ne serait pas... qui serait pas inutile. Et il fut un temps où certains établissements bancaires allaient sur des durées de 30 ans. On sait que la durée moyenne d'un crédit, c'est moins de 10 ans. Donc, malgré tout, ça reste toujours intéressant d'acheter, même sur une durée plus longue. C'est une solution qui n'est pas à négliger, je pense.
Bon, en rentaine, on en parlait avec Sandrine Allonier, qu'on salue. Hein. On se posait la question de savoir si c'était encore intéressant, parce qu'on a commencé cette interview en parlant du cap des 4%. Est-ce que c'est encore intéressant de prendre un crédit à 4%? Il y a beaucoup de les plus jeunes, en tout cas, n'ont pas connu des taux aussi élevé.
Les plus vieux, on en connaît des plus hauts.
Oui, les plus vieux. C'est pour ça que je ne voulais pas parler de vous, Cédric. mais est-ce que c'est encore intéressant d'emprunter à 4%?
C'est toujours intéressant d'emprunter de toute façon, surtout pour acheter sa résidence principale. Parce que quoi qu'il en soit, à la fin du crédit, on aura un capital, on aura un bien immobilier qui vaut de l'argent. Donc c'est toujours mieux que de payer un loyer. À 4%, on est quand même en dessous du taux de l'inflation. Les loyers, ils sont d'une manière ou d'une autre impactés par l'inflation. Vous êtes locataire, votre loyer va augmenter. Vous avez acheté votre crédit, la mensualité ne bougera plus. Si les taux venaient à rebaisser, vous pourrez renégocier votre crédit, réalléger votre mensualité.
Ça, c'est la mensualité ne va pas bouger, elle pourra même baisser potentiellement.
Elle pourra même baisser. La durée du crédit aussi. Donc, moi, j'ai toujours eu coutume de dire qu'il valait mieux privilégier sa mensualité ou en tout cas la part qui était dévolue à l'habitat, quelle que soit la durée du crédit, puisqu'on a toujours des moyens de raccourcir la durée du prêt, d'augmenter sa mensualité, de la baisser si toutefois il y a besoin. Donc oui, moi je reste convaincue que même à 4%, c'est extrêmement intéressant d'acheter, si on peut le faire. Peut-être que l'opération d'Orpi en aidera un certain nombre à le faire.
Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin pour faire le point sur une des clés quand même aussi de ce marché de l'immo.
Il y en a deux, le prix et le crédit. Hein.
Exactement.
Et l'un ne va pas sans l'autre.
Et l'un ne va pas sans... Jamais.
Merci beaucoup. Julie Merci Bachet, donc vous financez. Merci Marie. On se retrouve donc mardi matin.
Ah non, oui, c'est vrai. Je vais ramasser mes œufs.
C'est le plus long week-end boursier de l'année. le vendredi et le lundi.
Et là-dessus, il est ravi, Cédric. Il ne me voit pas pendant 4 jours.
Ouais, c'est le repos. À mardi.
À mardi.
Et très bon week-end. Ne mangez pas trop de chocolat. Dans un instant, ce sont nos traders qui liront la tendance du jour. On les retrouve, le marché parisien, en hausse de 0,26%, 7335 points.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, deux traders vous offrent leur regard graphique, technique sur la tendance du jour. Alexandre Baradez et Mathieu Serron sont en piste aujourd'hui. Alexandre depuis IG et Mathieu depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. C'est un petit peu particulier, nous sommes jeudi et c'est la dernière séance de la semaine. J'imagine, Alexandre, que ce long week-end qui s'annonce, c'est pas complètement anodin sur la tendance de cette dernière séance.
Non, c'est pas anodin parce que on a quand même un sentiment sur le CAC 40, si vous voulez, qui est un sentiment de soit on accumule un peu sous les résistances encore quelques temps, c'est-à-dire en gros on ne dépasse pas tout de suite les 7004 et on accumule, c'est-à-dire en gros on oscille entre des zones, peut-être 7000, 7004 pendant quelques temps avant de sortir par le haut. Mais vous parliez effectivement d'un long week-end qui s'annonce et pendant ce long week-end, vous avez demain des chiffres de l'emploi américain, mais on a eu hier peut-être un des éléments préalables à ce chiffre de demain, à savoir le chiffre ADP, on rappelle, qui est un chiffre donc, qui donne une estimation des créations d'emplois dans le secteur privé, et ce chiffre est ressorti nettement sous les attentes. Et il a été doublé ce chiffre, le chiffre américain donc, hein, c'est doublé également d'un indicateur ISM, donc qui mesure l'activité dans les services, et qui est ce qu'on appelle un indicateur avancé, et qui a nettement reculé par rapport au mois de février. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques semaines, on a un ralentissement qui est assez marqué du côté de l'activité dans les services aux États-Unis, pas encore contracté contrairement à l'indicateur manufacturier, mais on sait que les services, c'est une énorme partie de l'activité américaine, un trois quarts de l'économie, c'est du service. Donc, ça soulève question sur la dynamique économique américaine. Alors, on pourrait se dire, et ce qui est mon cas, formidable, des indicateurs enfin liés aux services ralentissent, donc la pression sur les salaires et la pression sur les prix dans ce secteur. C'est ça qui pose problème à la Fed, hein. C'est bien l'inflation dans les services aujourd'hui qui pose problème. Et bien on peut se dire, c'est parfait, du coup la Fed a ce qu'elle recherche et elle sera moins agressive. Ça, effectivement, je pense que c'est le bon raisonnement qu'il faut tenir sur quelques mois. Mais à très court terme, la question, et le marché semble nous donner des réponses par rapport à ça depuis le début de la semaine, c'est que les statistiques américaines qui tombent désormais en dessous des attentes depuis quelques jours, eh bien le marché n'accélère pas la hausse dessus. n'est pas un catalyseur. Le marché ne se dit pas, là, à très court terme, ces stats sont moins bonnes, donc j'accélère en prévision d'une Fed moins agressive. Le marché prend les données moins bonnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des données moins bonnes. Et il a un petit peu vendu. Et donc, vous voyez, on est dans cette situation-là où c'est plus une question de timing, où on se dit, bon, ben, est-ce qu'on salue des chiffres moins bons et puis on accélère sur les indices parce que la Fed sera moins agressive bientôt, ou est-ce qu'on se dit, il y a un petit temps où il faut pricer les statistiques moins bonnes et donc faire un peu reculer les indices. Et donc, vous voyez, moi, pour l'instant, je suis un petit peu dans la deuxième hypothèse, mais qui est une hypothèse, vous voyez, qui n'est pas dramatique, qui est une hypothèse où j'ai l'impression quand même que le marché remet un prix sur la question des stats moins bonnes qu'attendues. Et donc, on va regarder plutôt de ce côté-là. Et voilà. Et donc, pour l'instant, on a un CAC 40, alors, qui n'est pas simple à trader parce que acheter pile sous 7004, on n'y est pas tout à fait, donc il n'y a pas encore de pression à la hausse, vraiment intense. Et puis, vendre beaucoup de CAC alors qu'il a repris complètement la baisse, vous voyez, c'est mars, hein, le choc bancaire, tout a été repris de manière aussi vite que la baisse, ça n'incite pas à être trop vendeur non plus. Donc, je pense qu'il faut être, là, effectivement, faire un peu de trading là-dessus. C'est-à-dire, en gros, le CAC, tant qu'il est au-dessus de 7003, on touche pas trop, on n'essaie pas trop de vendre. Et puis, si on voit qu'il commence à taper 7290, 7280, avec sa décélère un petit peu, ben, on peut essayer d'accompagner un peu la tendance, surtout si ça vient après un chiffre, encore une fois, qui est moins bon qu'attendu. Et comme ça, on sort un petit peu sur la tendance, un peu de rebond de la volatilité. Et le CAC, quel niveau, si on passe sous 7003, on peut aller chercher plus bas. Il y a des gaps qui ont été ouverts dans la phase de rallye du CAC 40, donc c'est des trous de cotation. Il y a un gap qui se trouve légèrement sous 7200 points. Donc, oui, ça pourrait être des trades comme ça de 80 à 100 points qu'on peut aller chercher si on commence à lâcher sous 7003. Voilà, mais si par contre, on voit que là, le marché veut taper 7004 très très vite, hein, après le test il y a quelques jours, s'il remonte très vite à 7410, 7420, il y a aussi un risque de FOMO. Hein. C'est un risque que le marché joue justement cette hypothèse stat moins bonne égale Fed moins agressive, et le marché peut très bien s'emballer avant même que la Fed change de discours. Donc voilà, c'est des trades très symétriques, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... On ne cherche pas une tendance plutôt qu'une autre. On regarde les petits signaux intraday. Mmh. Si c'est d'abord sous les 7003 que ça part, ben on essaie d'accompagner pour aller prendre le gap à 7002.
Voilà la vision développée depuis IG par Alexandre Baradez. Mathieu, comment vous positionnez-vous avant ce long week-end? Et ces chiffres, Alexandre nous le rappelait.
Oui, tout à fait, à l'achat, même si, comme le disait Alexandre, la situation économique se tend. Mais ce que l'on constate sur les marchés, c'est qu'il se passe pas grand-chose. En effet, à l'approche d'un week-end prolongé, il y a peu d'écart, peu de volatilité et donc peu de saveur, hein, en quelque sorte. Et quand on regarde les valeurs qui bougent ce matin, hors valeur du CAC et arbitrage, il s'agit de petits dossiers très spéculatifs avec des fondamentaux un petit peu bancals. Là, on a le CAC qui monte malgré les valeurs du luxe, parce que ce matin, on a Hermès qui perd 0,6, LVMH 0,9, L'Oréal 1,70 et Kering 2%. Donc le secteur du luxe, je le rappelle, hein, pèse environ 25% dans l'indice. Donc, vous voyez, ces valeurs-là pèsent un petit peu. Et là, bah, sur la plupart des indices, on arrive à proximité de résistances importantes. Le CAC 7400, le DAX 15900, le SP500, on a une zone de résistance un petit peu large, 4150, 4200. Et la question que l'on se pose tous, c'est stop ou encore? Est-ce que cette fois-ci, on va franchir ces derniers plus hauts et ouvrir une fenêtre pour une nouvelle extension? Ou est-ce que l'on va rester coiffé par ces niveaux-là? Et à cette question, là, ben, je n'ai pas la réponse. Donc, ben, je me contente d'accompagner, on va dire, le biais, parce que parler d'une tendance haussière, ça serait quand même un petit peu exagéré, mais on a un biais haussier. Donc, on se contente de travailler à l'achat sur des replis. Et pour ce matin, on est positionné sur les 7315, 15-20. Il y a une zone support pour viser 7350 jusqu'à éventuellement une zone 7375-80. Mais ce marché-là, il donne pas tellement envie de prendre des initiatives. Vous voyez, on a un niveau d'opportunité qui est extrêmement faible, donc des probabilités de réussite qui ne sont pas extraordinaires. Et c'est pourquoi, ben dans cette phase-là, pour ceux qui sont par exemple investis à l'achat et qui se posent les mêmes questions que nous, eh bien, pour sécuriser des gains, on peut très bien intervenir sur les options. La volatilité implicite a beaucoup baissé, donc ça, c'est à signaler aussi. On est sur une volatilité implicite de 13, donc acheter par exemple des puts au cas où, à un moment donné, les marchés accompagnent, on va dire, la situation économique, eh ben, au moins ça ça fera amortisseur en cas de baisse. Aussi à signaler que, étant donné que demain les marchés sont fermés, eh bien ceux qui ont des positions, notamment options, échéance cette semaine, l'échéance sera aujourd'hui. Faut y penser, parce que moi je faisais le point sur mes positions à moi, et je me dis, mais c'est vrai, il faut peut-être que je liquide. Enfin, il y a des positions qui vont disparaître, donc il y a peut-être des choses à tourner. En revanche, les marchés américains, eux, seront ouverts. Sur le marché des devises, il n'y a pas de changement. Donc voilà, des marchés sans saveur que l'on travaille à l'achat, mais sans grande conviction.
Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure, hein, Mathieu. Vous restez devant vos écrans et on vous retrouve à 11h30 pour voir un petit peu ce qu'il en sera tout à l'heure. Pour le moment, c'est une hausse de 0,25, 7334 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et c'est Guillaume Paul qui nous accompagne ce matin. Bonjour Guillaume.
Bonjour mon cher.
Ça devient tendu pour des millions de Français qui vivent dans des copros. Il y en a de plus en plus dont les charges ne sont plus payées à cause notamment de l'envol de l'énergie, gaz et électricité.
Oui, parce que ça, c'est un sujet sur lequel on a l'air depuis des mois, on en a parlé sur BFM Business, et ça revient au galop parce que c'est la grande saison, vous savez, des assemblées générales de copropriétaires.
Oh, délicieux moment quand on est copropriétaire.
Avec tout son folklore, évidemment. Ça sent le vécu, ça.
Ouais, ça sent le vécu.
Et on redécouvre en France qu'il y a toujours ce problème, vous avez centaines de milliers de copropriétés qui ne bénéficient toujours pas du fameux bouclier tarifaire, alors qui est en vigueur depuis un an et demi, qui est un petit peu moins protecteur depuis le 1er janvier, vous savez, parce qu'on a quand même une hausse de limitée à 15% des prix de l'énergie. Alors, des copros qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire pour des raisons un petit peu techniques sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais enfin, ça dépend un petit peu de la nature du contrat qui a été souscrit. Résultat, c'est le même. C'est vrai que vous avez des centaines de milliers de Français au bas mot qui, aujourd'hui, voient leur facture d'énergie s'envoler de ce fait, évidemment.
Et du coup, quand on ne peut pas payer, c'est un pas de plus vers la précarité.
C'est un pas de plus vers la précarité. Ce sont des Français qui peuvent pas payer. Puis vous savez comment ça se passe dans les copros, puisque c'est du vécu. Quand vous pouvez pas payer, c'est celui d'à côté qui paye. Voilà. Donc des gens qui pouvaient payer vont devoir payer deux fois plus, voire trois fois plus. Et tout le monde, évidemment, en fait les frais. Vous avez environ, aujourd'hui, estimation, 7 copropriétés sur 10 dans lesquelles il y a des problèmes d'impayés. Alors, c'était déjà le cas avant la crise. Il y a déjà des problèmes d'impayés avant la crise, mais la crise énergétique a quand même pas mal accentué le phénomène. Avec des arriérés, on est en train de découvrir ça au moment où on fait les AG de 100, 200, 300. 400 000 euros et ça fait des situations absolument terribles parce qu'à un moment donné le syndic vous dit moi je peux plus, donc je suis obligé de couper soit l'eau, soit l'électricité, soit les deux sur une partie, voire la quasi-totalité de l'immeuble finalement. Voilà comment ça se passe.
Ouais, parce que le problème c'est que c'est tout le fonctionnement de la copro qui est affecté.
Parce qu'il y a potentiellement des risques de faillite de copropriété, ça existe, donc il faut faire attention à ça. Puis sinon oui, c'est le quotidien qui est bouleversé parce que on s'assoit, par exemple, comme ça sur les travaux d'entretien, rénovation, peinture, gardiennage, et puis l'ascenseur qui va tomber forcément en panne pour la xème fois à un moment donné, cette fois on ne peut plus le remplacer. Alors le gouvernement, vous savez, nous explique depuis quelques mois qu'il travaille sur un mécanisme de rétroactif pour faire en sorte que ceux qui, le trop-plein payé par les Français, soient réintégrés en 2022, mais ça fait des mois que ça dure cette histoire. Et attention, parce que vous avez des Français qui vous disent aujourd'hui mes factures c'est pas dans 6 mois que j'ai besoin de les payer, finalement c'est aujourd'hui.
Et puis quand on a des arriérés, il y a du recouvrement,
il y a du recouvrement,
des frais en plus,
des frais de recouvrement, voire potentiellement un procès de la part de votre syndic. Donc il serait temps que le gouvernement sorte un petit peu du bois quand même sur cette affaire.
Guillaume Paul et la polémique du jour, merci. Le marché parisien, 7334 points plus 0,25.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille Marion Chapelle-Massot. Bonjour Marion.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour De Carion Gestion Privée. Dans une semaine précisément, ce sera jeudi prochain, le service de télédéclaration en ligne ouvrira ses portes et on va donc revenir ensemble sur les nouveautés de cette campagne déclarative. Déjà, qu'est-ce qui change pour le CRU 2023 des revenus, rappel 2022, c'est comme ça que ça s'intitule.
Absolument. La grande nouveauté cette année, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, cette exonération concerne la résidence principale, évidemment, pas la résidence secondaire. Alors elle est corrélée, on va dire, à une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires, les 34 millions de propriétaires aujourd'hui en France. Alors cette nouvelle déclaration, c'est quoi? C'est une déclaration que vous devrez faire en ligne sur un nouvel onglet sur l'espace impôt.gouv dans la rubrique gérer ses biens immobiliers. Et donc cette obligation est vous devez faire état d'occupation de vos biens immobiliers, c'est-à-dire que vous devez déclarer qui sont vos locataires, par exemple, si vous êtes un bailleur. Alors, si vous êtes propriétaire, donc si c'est la résidence dans laquelle vous vivez, occupant, alors à ce moment-là, normalement, les informations sont pré-remplies. Si vous êtes indivisaire, c'est-à-dire que vous détenez ce bien, par exemple, avec votre frère ou votre sœur ou votre concubin, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait au moins un des co-indivisaires qui gère la déclaration. Et si vous êtes en démembrement, hein, par exemple, avec vos parents, cette déclaration incombe uniquement à l'usufruitier. Voilà, donc c'est une nouvelle...
Et c'est très précis, hein, en plus, qu'on va nous demander, parce qu'on va nous demander pas mal de choses qui vont au-delà de la simple occupation. Donc,
absolument.
On gamberge aussi pas mal sur l'utilisation qui sera faite de cette base.
Hein. Ah ben alors là, je peux vous confirmer qu'on nous demande, par exemple, les loyers hors charge. Il est mentionné, par exemple, si vous avez une piscine dans votre villa ou votre résidence secondaire ou maison de campagne. Et ce sont des informations très précises qui, évidemment, vont faciliter la route au fisc pour le croisement des informations et notamment des déclarations IFI. Donc, je conseille très vivement cette année de bien déclarer.
De faire bien attention.
Ouais. De bien déclarer et valoriser ses biens sur le plan de l'IFI, absolument. Ouais.
Alors, il y a un point nouveau. C'est ça ?
Oui.
C'est qu'on va enfin connaître notre taux d'imposition.
Alors oui, ça c'est un point nouveau et puis qui nous réjouit pas mal parce que c'est vrai que c'était vraiment assez opaque. On savait pas vraiment, en tout cas le contribuable ne savait pas à quel taux il était imposé. À moins, évidemment, de faire des calculs parfois un peu savants. Si vous aviez une famille, par exemple, avec beaucoup d'enfants et donc l'application du quotient familial. Alors, désormais, on va voir apparaître sur l'IFU, donc votre document et sur votre avis d'imposition, vous allez voir apparaître donc le taux moyen d'imposition, qui est donc le taux réel d'imposition, hein, et le TMI, donc le taux marginal d'imposition, qui est le taux de la dernière tranche à laquelle vous êtes imposé du barème. Et en parlant de barème, d'ailleurs, il est également, en termes de nouveautés, revalorisé.
Oui.
Revalorisé de 5,4% alors qu'il n'était que de 1,4% l'année dernière.
C'est l'inflation oblige.
Absolument. Et cela va éviter notamment la double peine pour ceux, par exemple, qui n'auraient pas vu leur salaire revalorisé l'année dernière
et qui mécaniquement monterait d'une tranche, enfin
mécaniquement tomberait d'une tranche, ou qui ont subi l'inflation de plein fouet, et donc eux verront leur impôt minoré cette année grâce à cette revalorisation.
Si on se projette un petit peu, est-ce que les mesures concernant la transition écologique sont encore encouragées?
Alors oui, les mesures, tout ce qui va être prime rénov, les mesures concernant les véhicules électriques sont prolongées. Les plafonds ont été revus à la hausse et donc vont encore bénéficier pour l'année 2023. La principale nouveauté sur les revenus 2023, hein, donc ça va concerner la déclaration l'année prochaine, ce sera le doublement du plafond sur le déficit foncier. Ce plafond, on verra l'année prochaine et on en reparlera peut-être plus largement parce qu'il va concerner un nombre de travaux limité, propre à la rénovation énergétique, et il conviendra quand même de faire quelques calculs pour voir si c'est vraiment, vraiment une opportunité et s'il convient de s'en réjouir autant. Bon. Bonne ou mauvaise nouvelle.
Là, on a essentiellement, Marion Chapelle-Massot, évoqué des choses qui sont dans cette déclaration. Qu'est-ce qui n'y sera pas ?
Eh bien, pourtant promesse de campagne, la revalorisation des abattements pour les droits de donation et succession, pourtant promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, mais malheureusement cette réforme est reportée pour raisons budgétaires. Mmh. Donc il était question, par exemple en ligne directe, d'augmenter l'abattement, donc le potentiel donation entre parents de 100 000 à 150 000 euros par exemple, mais pas que, il y avait aussi un certain nombre de mesures entre frères et sœurs, etc., qui devaient être majorées et qui sont désormais reportées.
Juste pour terminer, qui doit déclarer ?
Alors, doivent déclarer, évidemment, la déclaration d'impôt est obligatoire. Même si vous n'avez pas eu de revenus, vous devez déclarer vos impôts. Vous devez déclarer vos impôts si vous avez eu 18 ans et que vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Vous devez déclarer vos impôts, évidemment, si vous avez une activité professionnelle en France. Et vous devez déclarer vos impôts si vous êtes non résident et que vous avez des revenus de source française.
Et si on a 18 ans, par contre, et qu'on veut être rattaché au foyer familial, il faut faire la petite démarche, une petite lettre, c'est ça?
C'est ça, absolument.
Et ben voilà, tout ce qu'il faut savoir à l'approche de cette déclaration. On rappelle le calendrier 2023.
Calendrier 2023,
alors. Ça ouvre jeudi prochain.
Ça ouvre jeudi prochain. Pour les réfractaires Internet, vous pouvez déclarer une déclaration papier donc jusqu'au 22 mai. Ouais. Et ensuite, en fonction de votre région, entre le 25 mai et le 8 juin.
Ça s'étale.
Voilà, sur trois semaines pour
rendre. Les numéros traditionnels de département, c'est
absolument,
ça?
Absolument, absolument, Cédric.
Marion Chapelle-Massot et De Carillon Gestion Privée, merci d'être passé nous voir.
Merci.
Et d'avoir parcouru pour nous cette saison de déclaration des revenus 2022, donc saison 2023, mais il y a toujours ce décalage. Dans un instant, c'est Jean-François Filiatre, bien sûr.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit tour sur le marché avant de retrouver donc Jean-François et Marché Gagnant. Plus 0,19, 7330 points. On manque vraiment d'initiative ce matin. Ailleurs en Europe, c'est d'ailleurs un peu la même chose. Les principales hausses, Thales, BNP et Total. Les principales baisses, Kering, L'Oréal et LVMH. L'eurodoll, 1,0899.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme chaque jeudi, Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Votre sujet cette semaine.
Cette semaine, on va parler du portefeuille de Marché Gagnant et on ne va pas manquer d'initiative puisqu'on va essayer de prendre un certain nombre de décisions. Vous noterez d'ailleurs qu'en termes de style, je suis plus proche de l'approche forward guidance, c'est-à-dire où les banques centrales donnent des indications à l'avance, que de la fameuse stratégie d'Alan Greenspan qui disait « si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ».
Effectivement, vous nous aviez annoncé la semaine dernière que la position allait être prise sur le secteur pétrolier avec, vous aviez dit vraisemblablement, l'entrée de Total en portefeuille suite au vote des internautes. C'est bien ça ?
Ouais, alors si vous le permettez, je vais refaire l'histoire parce que vous savez que le concept donner des recommandations, acheter telle valeur et vendre telle autre, c'est pas mon genre de beauté pédagogique. Et je pense qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc, fin 2020, on a créé un portefeuille à vocation pédagogique en investissant la même somme aux problématiques des valeurs des cours prêts sur 11 titres de secteurs économiques différents. L'idée, c'était d'éduquer ma copinette sur la construction de portefeuille. Et là, j'avais une première leçon. La diversification d'un portefeuille, ce n'est pas simplement le nombre de lignes, mais c'est d'avoir une réelle diversification sectorielle.
Oui, je me souviens, vous m'aviez envoyé des tas de trucs, il avait fallu que je découpe, que je mette dans des enveloppes pour tirer au sort.
Et vous aviez réussi l'exercice avec un brio remarquable. Dans le secteur de l'énergie, vous aviez tiré CGG. Alors CGG, dans le jargon, c'est ce que l'on appelle une penny stock. En général, ce sont des actions qui sont un peu en phase de décadence et qui, souvent d'ailleurs, font face boursièrement à des mouvements très volatiles. Alors au début, j'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que j'avais fixé la règle du jeu et que sur le fond, quand vous annoncez un portefeuille équipondéré avec un investissement initial de 10 000 euros, eh ben, c'est plus facile de le faire avec des valeurs qui valent 1 euro qu'avec des actions comme par exemple Christian Dior qui à l'époque valait 450 euros. Alors, une deuxième leçon, c'est quand même délirant qu'en bourse, on puisse pas acheter des bouts d'actions comme on le fait dans plein d'autres secteurs. Donc, disons-le autrement, ça fait un peu de la bourse quand même un marché rétrograde.
Bon, vous n'aimez pas les penny stocks et vous me brocardez ce matin. Pourtant, au départ, vous n'aviez pas boudé votre plaisir avec mon tirage au sort.
Ouais, l'action, elle était rentrée à 0,81 euros et trois mois plus tard, elle était à presque 1,30. Alors, ça me donne l'occasion, si vous permettez, de rappeler deux leçons. Un, la première leçon, c'est que le cours d'une action est par ricochet son prix de revient. Moi, je pense qu'il faut s'en moquer comme de l'an 40. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix de gérer notre portefeuille dans le cadre du PEA. Pourquoi ? Parce que les opérations réalisées ne génèrent pas de fiscalité à chaque mouvement. piloter un portefeuille à partir des prix de revient, à mon sens, c'est désastreux. L'indicateur majeur que moi je préfère, c'est le poids de la valeur dans le portefeuille. Et en trois mois, qu'est-ce qu'il s'était passé ? C'était que le poids de notre action CGG, il était passé de 9,1% à 12,4%. Et là, ça m'amène à reprendre un point de la méthodologie. Quand le poids d'une action devient trop faible, il faut s'interroger pour savoir s'il faut renforcer cette action ou s'il faut la vendre pour en acheter une autre. Et en sens inverse, quand le poids augmente trop, eh bien, il faut s'interroger pour savoir s'il faut alléger le titre ou bien le vendre pour en acheter un autre.
En l'occurrence, à l'époque, vous nous en aviez certes parlé, mais sans rien faire.
Exact. Et d'où une nouvelle leçon. Si on croit lorsque l'on gère un portefeuille boursier qu'on fait tout comme il faut, eh bien, on se met le doigt dans l'œil. Alors, oui, gérer un portefeuille boursier, c'est accepter de se planter, même si en pratique, il faut quand même essayer de ne pas le faire trop souvent. Toutefois, il me semble quand même que les leçons de CGG avaient été retenues. Et pour mémoire, ça m'avait quand même amené à prendre deux fois des positions assez claires sur des prises de bénéfices sur notre ligne Eramet. En bon français, appelle la courbe d'expérience.
Alors, comment en est-on arrivé à prendre la décision de sortir CGG alors ?
Eh bien, en pratique, relativement aux autres valeurs du portefeuille, CGG s'est mal comporté ces derniers mois et désormais son poids se situe à 5,6%. Par ailleurs, si on refait l'histoire, lorsque l'on a été confronté au dossier Orpea, on a découvert le concept des valeurs shortées. Alors, une valeur shortée, c'est une valeur sur laquelle il y a une forte position de vendeur à découvert. Bref, il y a des gens qui vendent l'action qu'ils n'ont pas avec pour objectif de la racheter plus tard à un cours inférieur. Et vu qu'on cherche à bâtir un portefeuille pour des gens qui n'ont pas envie de passer le nez collé sur les écrans à longueur de journée, j'ai dit que ces valeurs-là, on n'en voulait plus. Donc, en pratique, il fallait revoir notre position sur le secteur de l'énergie parce que son poids était devenu trop faible. La valeur CGG ne pouvait être plus maintenue parce que c'est une valeur chantée, d'où la vente annoncée.
Bon, mais comme on était dans le secteur pétrolier, inévitablement, on s'est retrouvé et vous avez souhaité parler de finances durables. On a organisé sur le plateau un débat pour savoir s'il était déontologique d'investir sur Total aujourd'hui.
Ouais, et on avait mis les professionnels autour de la table et la réponse était globalement plutôt non. Au passage, on notera d'ailleurs que l'autorité des marchés financiers a bougé, puisque désormais, elle évoque le fait que les énergies fossiles doivent être retirées des fonds à impact au niveau européen. Et puis, après avoir interrogé les professionnels, on m'a interrogé Choupinette. Et Choupinette, elle est descendue là dans la rue et elle a dit que pour elle, il n'y avait pas de problème. Alors, on a dit qu'on pouvait investir sur le secteur de l'énergie. On a réouvert un débat pour savoir s'il fallait investir sur Total Energy, sur GTT, sur un tracker, c'est-à-dire un fonds indiciel, coté sur le secteur de l'énergie.
Et du coup, on a le jingle roulement de tambour ?
Eh bien, 53% pour Total, 20% pour GTT, 19% pour les trackers, qui, il faut bien le reconnaître, avaient été largement plombés par une chronique que j'avais pu faire inspirée par Yo-Yo, un fidèle de marché gagnant. Et on a 7% des gens qui nous disent qu'il ne faut pas investir sur le secteur énergie.
Donc on vend CGG et on achète Total.
Donc on va vendre CGG. Alors pour mémoire, en début de mois, on avait placé un ordre de nos 100 129 titres à 0,9876. On l'a approché et puis après, il y a eu un retournement de marché avec la crise bancaire. Et les cycliques sont partis au tapis. Donc, cet ordre-là, aujourd'hui, on va l'annuler. Et ce soir, après la clôture sur le site de Marché Gagnant, je vous donnerai un cours limité pour la cession de nos titres.
Et pourquoi ce soir, après la clôture, pourquoi pas aujourd'hui ?
Parce que tout est ultra pratique dans ce qu'on essaie de faire à cause des rediffs et des replays. Si j'étais un peu provoque, je vous dirais aussi aujourd'hui à cause de la grève. Pourquoi ? Parce que certains ne sont pas forcément en train de pouvoir nous écouter aujourd'hui à 10h56. Donc, ils prendront le chemin un peu plus tard dans la journée avec le replay et je veux mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, cours limité ce soir après la clôture et demain, à partir de l'ouverture, on verra si on est exécuté ou pas.
Et après, on achète Total.
Ben, vous savez, Cédric, d'ailleurs, que Total Energy, c'est l'action la plus échangée par les investisseurs particuliers selon une étude de l'autorité des marchés financiers. Alors, vous savez que j'aime bien qu'on donne des critères, qu'on donne des arguments. Moi, ce que j'ai entendu dans le débat, c'est Total, c'est pas cher. C'est un price ratio qui est très faible. Ça va se verdir. Et puis, évidemment, il y a le sujet du rendement. Et là, je ne vous cache pas qu'à ce stade, j'ai un problème de construction de portefeuille.
Quel problème exactement ?
Eh ben, dans votre tirage au sort, au début, on était bien répartis en secteurs, mais si je regarde en typologie de valeurs, on n'avait pas beaucoup de valeurs de rendement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti Iliad. Iliad, c'était une valeur de croissance. Et la communauté a fait le choix de remplacer Iliad par Orange, qui est une valeur de rendement. Là, on est en train de sortir CGG, qui est une, ce qu'on appelle une recovery, donc une boîte qui est en difficulté financière et dont la situation économique s'améliore, au profit de Total Energy, qui est une valeur de rendement. Et en fait, très souvent, les valeurs de rendement, elles valent pas cher. Alors, dans l'argumentation des particuliers, si on regarde comment ils fonctionnent, ils nous disent, un rendement, avoir un rendement, c'est rassurant. Même si en pratique, rien n'est garanti. On se dit qu'on va se toucher tous les ans un peu d'argent. Et puis, comme c'est pas cher, on se dit qu'on a un potentiel de plus-value. Et très souvent, on a ce réflexe de particuliers qui aiment, qui adorent les valeurs de rendement. Mais ça, pardon, mais ça, c'est la vision positive du dossier. Pourquoi? Parce que chaque dossier, comme toujours, on peut le regarder de différentes façons. S'il y a du rendement, c'est qu'en fait, il faut attirer les investisseurs. Car sans rendement, ils ne viendraient pas. Et pourquoi ils ne viendraient pas? Eh bien, parce que ce n'est pas tentant. Soyons clairs, parce qu'on n'a pas beaucoup de croissance, etc. Soyons clairs, ça vaut pour Orange, ça vaut pour Énergie, et ça vaut aussi, par exemple, pour la troisième position qu'on a dans le portefeuille, qui est très marquée en rendement, c'est Crédit Agricole.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de Total?
Alors, pour l'instant, on va faire les choses dans l'ordre. Un, on va vendre CGG pour récupérer de l'argent. A priori, derrière, je pense qu'on rachètera Total, mais en fait, j'aimerais bien...
C'est ce que veulent les internautes, en tout cas.
Ouais, mais comme moi, je dis, je suis garant de la construction du portefeuille, donc je vais quand même assumer un peu mes responsabilités aussi. Moi, j'aimerais bien troquer Total contre une sortie du secteur financier. Vous savez que la semaine dernière, je vous avais fait une chronique pour vous dire que les épargnants et les Français étaient en risque majeur sur le secteur financier et que je pensais qu'il n'était pas une bonne idée de rajouter le risque financier dans une portefeuille, dans un portefeuille boursier. Donc, on va un peu débattre avec les épargnants sur le sujet. Ouais, je vais écouter ce qui se passe. Je vais voir à la fin si je passe par le voie de la négo ou par un 49.3. Donc, on ouvre les discussions avec la communauté et puis je reviendrai en plateau pour vous donner le résultat et la suite du dossier. Ouais,
on résume, c'est nous qu'on vote, mais c'est lui qui choise. Hein. C'est comme ça avec Jean-François Fillâtre, apprendre ou apprendre. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Malgré tout, vous répondrez aux questions des auditeurs. Le CAC, plus 0,16, 7327 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h passées 2 minutes, on débute cette deuxième heure de BFM Patrimoine en jetant un œil sur l'actualité économique avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Emmanuel Macron reçu en ce moment même pour un entretien en tête-à-tête avec Xi Jinping pour la deuxième journée de sa visite d'État en Chine. Le chef de l'État dit compter sur Pékin pour lancer des négociations avec Moscou sur la guerre en Ukraine. C'est l'un des enjeux d'ailleurs de ce déplacement réalisé avec Ursula von der Leyen. Pékin qui montre les dents après l'entretien entre la présidente de Taïwan et le speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis. Tsai Ing-wen a salué le soutien indéfectible de Washington à Taïwan. En réponse, la Chine a envoyé aujourd'hui des navires de guerre près de Taïwan, peu après avoir déployé un porte-avions. Et Pékin promet aujourd'hui une réponse ferme et énergique. En France, peu de perturbations dans les transports pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elles sont limitées au TER avec un train sur deux en circulation, 3 sur 4 pour les TGV, à la RATP, trafic quasi normal. Hier, la réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux n'a rien donné. Chacun campe sur ses positions et pas question pour les syndicats d'avancer sur d'autres sujets tant que la réforme n'est pas retirée. Également dans l'actualité, cette bonne nouvelle pour l'Allemagne, la production industrielle progresse plus que prévu en février, plus 2% sur un mois, largement portée par l'automobile, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral d'Helsaltis. L'automobile qui est moins impactée en Allemagne par les problèmes d'approvisionnement qui ont plombé sa croissance l'an dernier. Pas de bonus ni de prime pour les hauts dirigeants de Crédit Suisse. Le gouvernement suisse vient de les supprimer. Cela concerne les sommes dues jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça représente 50 à 60 millions de francs suisses. C'est une exigence en compensation des aides publiques qui ont été versées pour le sauvetage de la banque. La voiture à hydrogène du français Opium va-t-elle voir le jour ce matin? La start-up annonce qu'elle va en priorité se concentrer sur sa pile à combustible qui promet des revenus à court terme. Quant à la voiture, la Machina, présentée comme la Tesla à hydrogène française, le premier prototype est attendu pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine. En tout cas, les finances de la jeune pousse sont tendues et son cours de bourse s'est effondré depuis fin 2022. Boeing reprend les livraisons des 767, ces avions gros porteurs de taille moyenne, après une pause de 3 mois. Une pause qui avait été provoquée par la découverte d'un défaut de fabrication sur les réservoirs d'un des fournisseurs. Et on termine avec Total Energy qui élargit pour le moment le blocage des prix à 1,99€ par litre d'essence. Cette mesure va également s'appliquer à la gamme Premium, Excellium, jusqu'à ce que les stations-service ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement.
Merci beaucoup Faïza Younzi qui nous accompagne chaque heure pour lire cette actualité économique. Nous tout de suite, on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Antoine Larrigaudry qui nous accompagne ce matin. On vous retrouve Antoine depuis cette salle de contrôle du CAC pour une séance qui manque un petit peu de conviction.
Oui, on va dire ça comme ça. En même temps, on s'en sort pas si mal, hein, parce que du côté de la conjoncture de marché et de ce qui traîne sur les tables de marché, franchement, un gain de 0,27%, on va dire que c'est inespéré. 7335 points. On est toujours très très près de nos plus hauts historiques, hein, à peine 70 points. Et du côté des autres places européennes, ça se passe plutôt pas mal aussi, avec un Eurostock 50 qui gagne 0,19% et plus 0,24% pour le DAX à Francfort. Une tendance pas très affirmée. Pourquoi? Déjà parce que on est à la veille de 4 jours de très longs week-ends boursier de Pâques. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu et le vendredi saint et le lundi de Pâques. Et donc, du coup, il n'y aura pas de bourse pendant 4 jours. Ça va peut-être avoir le mérite de refroidir un peu les esprits parce que du côté de Wall Street, hier soir, on se faisait quand même énormément de soucis pour l'économie américaine. On a eu un amoncellement de statistiques extrêmement mauvaises, que ce soit les ISM qui étaient largement en dessous des attentes, que ce soit les prévisions de croissance de la Fed d'Atlanta, qui est la plus pointue, hein, sur les perspectives de croissance américaine, très largement revues à la baisse, hein, pour le premier trimestre. Bank of America qui prévoit même que l'inflation risque de tomber comme une pierre dans les prochains mois. Les mots de récession, les mots de hard landing refont leur apparition dans le discours de marché, hein, en tout cas du côté des marchés américains. Et parallèlement, on a une zone euro qui se porte bien. Vous l'avez entendu avec Faïza, production industrielle allemande largement supérieure aux attentes, beaucoup de robustesse. On a eu les commandes aux usines aussi cette semaine qui étaient supérieures aux attentes. Bref, ça se passe bien. Donc du coup, sur le marché obligataire, on a une correction très très nette des taux à 10 ans américains, alors que les taux européens, eux, restent fermes. Et ça nous donne une Europe boursière particulièrement attractive. Donc c'est pour ça qu'on surperforme et qu'on s'en tire pas trop mal. Avec Unibail-Rodamco Westfield, une valeur très réactive au taux, hein, justement, qui reprend du terrain. Plus 2% ce matin, on est à 49,42€, c'est la plus forte hausse du CAC. Vinci plus 1,6 à 107,34€. On a Thalès aussi, plus 1,9% à 139,25€. Le secteur bancaire poursuit son redressement avec notamment BNP Paribas qui gagne 1,6% à 56,74€ et Total Energy, le poids lourd, gagne 1,5% à 59,01€. En revanche, correction marquée et unanime autour du secteur du luxe, raffermissement des taux d'intérêt, plus tentation de la prise de profit, évidemment. Kering perd 1,9% à 554,60€. On a L'Oréal, moins 1,6% à 416,90€. LVMH, moins 1 à 835,90€. Mention spéciale pour Accor qui gagne 4,1% à 29,98€. Le CAC, plus 0,26, on est à 7335 points et l'euro, 1,0905 Cédric.
Merci beaucoup Antoine Larrigaudry, ce matin depuis le siège d'Euronext à La Défense. Tout de suite, c'est l'œil du stratège.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Sébastien Barbe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Montpensier Finance. Alors effectivement, ce matin, on l'entend avec Antoine, ça manque un peu de conviction, etc. Mais il faut quand même pas oublier qu'on est à la veille du week-end pascal, 4 jours où les marchés seront fermés. Et pourtant, il y aura des statistiques importantes, notamment aux États-Unis. Et donc, c'est probablement logique de voir un petit peu d'attentisme. Malgré tout, on est dans le vert, on est à quelques dizaines de points tout juste de nos plus hauts absolus, c'est-à-dire que la correction est terminée?
Ah, alors, sacrée question, parce que de quelle correction on parle, Cédric? Si c'est la correction récente sur les marchés européens, je ne sais pas si elle est terminée, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est effacée. Si on regarde les marchés avec un peu plus de recul, si on regarde, on a tous en tête que l'année 2022 a été compliquée. Alors, c'est moins vrai sur les actifs européens qui ont repris des couleurs, mais enfin, le Nasdaq a quand même encore un quart en dessous de son plus haut historique.
Même s'il est reparti dans ce qu'on appelle un bull market, parce qu'il a repris depuis ses plus bas, enfin voilà.
On va en reparler, et si on regarde, vous parliez tout à l'heure sur l'antenne du marché immobilier, est-ce qu'il a commencé sa correction? C'est là aussi la question est ouverte, donc des corrections, on a plusieurs.
Malgré tout, ces questions bancaires qui ont un petit peu fait gamberger tous les opérateurs depuis une quinzaine de jours. Cette question d'un potentiel problème bancaire, elle est en fait derrière nous. On se dit que c'est effectivement quelques banques régionales, on va dire, aux États-Unis. On ne va pas négliger leur importance dans le crédit, etc. Mais voilà, c'est bien circonscrit.
Ah non, je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment décomposer ce que vous appelez comme problème bancaire en trois problèmes différents. Le premier problème, c'est le problème de gestion active passif, comme on dit. C'est ce qui avait fait sauter SVB lors du week-end, le premier week-end qui a surpris beaucoup de gens, en réalité. Ça a été, on va dire qu'on a soigné, les banques centrales sont arrivées très vite pour soigner finalement ce problème de liquidité en injectant des liquidités. Mais c'est un petit peu comme si, on avait soigné une crise cardiaque avec un remède qui est « je te passe des liquidités », sauf que le coût de la liquidité est à 5% aux États-Unis, comme vous le savez. Et donc, si je suis banquier, que j'ai dans mon book des actifs qui me rapportent du 2 ou 3% et que me soigne avec du 5, je perds un petit peu tous les jours. Donc ça veut dire qu'on a transformé le problème d'un coup en un problème un petit peu plus larvé, plus durable, qui va durer justement et qui va finalement entraîner l'ensemble du système bancaire à faire attention à ses dépôts et à réduire sa production de crédit. Donc ça va se diffuser dans le temps. Ça, c'est le premier problème. Après, il y a un deuxième problème qui est le problème de la solvabilité. C'est celui qui fait le plus peur, finalement. Parce que le problème de solvabilité, c'est qu'est-ce que j'ai dans mes actifs? Si j'ai des treasuries, les taux ont rebaissé. Donc,
on va dire que la liquidité, c'est un problème de tuyauterie, alors que la solvabilité, c'est une question de confiance.
Et puis, c'est un problème de fonds propres. Ouais. C'est un vrai problème de solidité. Si j'ai des treasuries, le prix des treasuries a quand même rebondi depuis le début de ces découvertes. Donc je vais déjà un peu mieux. Mais si j'ai, et on le sait tous maintenant, un grand nombre de prêts dans des secteurs qui vont quand même être durablement compliqués, que sont l'immobilier non résidentiel, que sont le financement des LBO et choses comme ça, eh ben, il va falloir bien réfléchir à où sont les risques, qui portent les risques, et de temps en temps, j'aurai quand même des sujets. Ça aussi, ça va entraîner probablement une sélection de la part des banquiers sur ce qu'ils vont vouloir refinancer, et probablement plus cher et avec moins de risques. Donc ça va être quelque chose de durable. Et donc je dirais que le problème des banques, c'est finalement rapidement un problème qui se diffuse à l'économie, le problème des autres.
Donc il y a un problème bancaire qui débouche éventuellement sur une crise financière ?
Alors, il y a un sujet bancaire qui se traduit, je pense, dans toutes les banques par on fait attention à nos dépôts et on restreint la production de crédit, que ce soit aux entreprises ou aux ménages. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on va, enfin, les banquiers vont choisir à qui ils vont prêter plus cher. J'entendais que les prix immobiliers allaient continuer à remonter, alors qu'on pourrait dire, finalement, les taux ont rebaissé, donc ils devraient reprendre le chemin de la baisse. Ce sera pas le cas. Et donc, ça va se diffuser dans l'économie sur tout un nombre d'acteurs qui dépendaient justement de cette structure de financement. Et tout un tas d'acteurs qui dépendent beaucoup moins du financement vont à la fois bénéficier d'un marché de taux plus sympathique et puis finalement de problèmes qui sont plutôt chez les autres que chez eux. Donc je dirais que le problème bancaire, c'est plutôt trois choses différentes.
Mais on voit quand même tous les délais qui se sont raccourcis. Enfin, je veux dire, voilà, si on fantasme et qu'on revient aux crises précédentes, on se souvient qu'entre Bear Stearns et Lehman, il y avait eu tel délai, etc. Et là, finalement, entre SVB et Crédit Suisse, tout ça, c'est un peu condensé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de crise financière ou, là encore, ne nous trompons pas de mots et ne jouons pas à nous faire peur?
Alors, je dirais les choses un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que la politique monétaire, ça a commencé à se restreindre depuis longtemps. Et simplement, on a découvert avec SVB, finalement, l'impact de cette restriction de liquidité qui, dans nos interviews précédentes, Cédric, était finalement les banquiers centrés remontent les taux, puis finalement il se passe pas grand chose. Mmh. En fait, on a découvert que d'un coup, finalement, ça commence à piquer. Donc ça arrive effectivement avec SVB. Le week-end suivant, c'est sûr que Crédit Suisse, c'est des problèmes différents, mais on a tendance à dire que c'est un petit peu la même chose. Et on a failli avoir peur encore le week-end suivant avec d'autres banques en Europe, comme vous le savez.
Et finalement, la finance s'en sort indemne parce que on est quasiment au plus haut sur le CAC. Le Nasdaq est de nouveau en bull market. Le SPI, finalement, dans la tempête, sur la période, il n'avait perdu qu'un pour cent. La finance s'en sort toujours indemne?
La finance, ça veut dire quoi, la finance? La finance, c'est plein de choses. Si on parle de certains indices, oui, on est revenu au plus haut. C'est pas le cas de tous les indices. Si on regarde le portefeuille d'un institutionnel ou le portefeuille d'un particulier, c'est pas du tout évident qu'on soit sur des plus hauts parce que le marché obligataire a corrigé. Le Nasdaq, comme vous le disiez Cédric, a perdu un quart de sa valeur, même s'il a remonté par rapport à ses points bas. Sur les marchés émergents, quand on regarde les deux, avec l'impact des devises, on est quand même à presque moins 30 quand même, mm-hmm. par rapport au plus haut. Donc globalement, les marchés sont pas tous au plus haut. C'est vrai qu'on a l'illusion du CAC 40 qui flirte avec ses plus hauts encore ce matin.
Ouais. Donc il y a ces problèmes qui sont là et malgré tout on voit nos banquiers centraux qui re-regardent les stats, on attend l'emploi américain demain et on se dit effectivement que ça peut jouer. Ça veut dire que tout le monde revient finalement sur ses axiomes de base, sur cette lutte contre l'inflation, sur...
Pour le coup, on a deux situations contrastées, je crois. Hein. On a finalement une situation aux États-Unis pour la Banque centrale qui est assez facile à gérer, je trouve, hein, puisque on va avoir maintenant des chiffres d'inflation qui vont vraiment, vraiment baisser.
D'accord.
On a encore vu quelques publications hier, notamment dans l'ISM prix payé, où là, si vous regardez la courbe, c'est en baisse très sensible. Donc, on va avoir dans les mois qui viennent une inflation qui baisse de manière naturelle et assez rapide. Donc, ce sera quand même assez facile pour la Fed de pouvoir avoir un discours. On a peut-être vu le pic de la hausse des taux, et en tout cas de pouvoir avoir un discours de beaucoup plus accommodant, et puis rebaisser les taux, puisque si je reviens sur le problème d'avant, qui est à mon avis celui qui interpelle le plus la Fed, qui est le financement du système bancaire. Il va bien falloir à un moment donné rebaisser les taux pour que le coût de financement se rapproche du coût de ce qu'on a dans les boucles. Donc les marchés anticipent 100 points de base de baisse des taux sur un an.
Ouais.
Je ne suis pas certain qu'ils se trompent de ce point de vue-là.
Ouais, sauf qu'au même moment, on a par exemple l'OPEP Plus qui décide de limiter sa production pour maintenir ses prix, ce qui aura un impact sur les hausses de prix, non, sur l'inflation. Alors,
je reviens à cette question après, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'Europe et le sujet de la BCE. Le sujet de la BCE est beaucoup plus complexe à gérer. Je prends deux pays frappants dans la zone euro. Mm-hmm. Quand on regarde le Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas, ils ont laissé filer l'inflation qui est montée à 17% en glissement annuel. Et puis évidemment, maintenant, on est dans la deuxième phase où le prix du pétrole a somme toute bien rebaissé, le prix du gaz, etc. Et on a une inflation aux Pays-Bas qui n'est plus que de 4,5% en glissement annuel et qui peut-être va arriver en territoire négatif. Et si on prend notre pays, la France, comme nous, on a empêché les prix de monter, forcément, c'est plus difficile de les faire redescendre derrière. Donc, on sent bien qu'on culmine à 5, 6, 6,5 d'inflation et ça va être difficile de leur faire rebaisser. Et donc, quand vous êtes la BCE, il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de gouvernance en soi, puisqu'il y a quand même les représentants de chaque pays. Donc, chaque pays a une situation particulière. Donc, on a beau réfléchir ensemble, chacun ouais. influence dans un sens ou dans l'autre. Et bah, vous le savez, on l'a largement commenté. Et puis une situation matérielle qui est que l'inflation en Europe elle est pas encore sur des pentes extrêmement descendantes. Et puis après il y a la question effectivement du pétrole. Alors le pétrole effectivement on a eu cette nouvelle de la
En tout cas les Américains Washington a dit ça tombe pas du tout au bon moment.
Bah oui, ça tombe pas du tout au bon moment parce que je pense que les États-Unis, ils le disent pas, mais ils avaient surtout besoin de reconstituer les stocks stratégiques dans lesquels ils avaient largement puisé dans le passé quand le pétrole était trop important à leurs yeux, justement quand il y avait trop d'inflation. Donc, faut pas que ce soit une question d'inflation, mais simplement ce serait bien de reconstituer les stocks à des prix plus sympas. Parce que finalement, la nouvelle du pétrole, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors c'est une mauvaise nouvelle, Cédric, pour faire votre plein d'essence avant votre week-end pascal de 4 jours. Mais Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les stocks stratégiques. Mais fondamentalement, il y a plutôt une corrélation positive entre la hausse du pétrole et la hausse des bourses.
D'accord.
Déjà parce qu'il y a des valeurs qui profitent de la hausse du pétrole, bien sûr, dans la bourse. Mais globalement, c'est plutôt un signal positif sur le fonctionnement de l'économie. Moi, j'y vois presque une mauvaise nouvelle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas encore assez. Faiza a dit tout à l'heure que les chiffres hier étaient pas très bons. Mais on sent bien qu'il y a, il y a quand même des vraies questions sur le cycle économique qui se posent. Peut-être que l'OPEP, qui se sent plus indépendante maintenant qu'il y a le bloc chinois qui est en train de se constituer, se dit juste, avec ce qui arrive devant nous en termes de cycle...
Je gère mes prix, quoi.
Eh bien, je baisse un peu mes prix et puis et pour essayer de maintenir un prix du pétrole assez haut.
Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Barbe et Montpensier Finance qui nous accompagnaient ce matin dans l'œil du stratège. À très bientôt.
Merci, Cédric.
Le marché, il progresse de 0,26%, 7334 points.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h31, on entame cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine et comme chaque demi-heure, elle commence par un détour sur les marchés. C'est Perceval Finance Conseil et Mathieu Cérone qui nous accompagnent ce matin. Merci de suivre les tribulations du marché qui hésite un petit peu. On est à la veille d'un très long week-end, 4 jours, avec des chiffres importants demain de l'emploi américain. Et nécessairement, ça entraîne à un peu de prudence. C'est ce que vous constatez sur le marché, Mathieu ?
Oui, tout à fait. Beaucoup de prudence, qui est assez logique à la veille de ce week-end prolongé et à la veille des chiffres de l'emploi aux États-Unis, des valeurs du luxe qui pèsent un petit peu sur la tendance, et ce qui explique la divergence entre le DAX. Le DAX est sur une hausse de 0,30% et le CAC en est proche de l'équilibre, puisque les valeurs du luxe, comme je le disais tout à l'heure, sont toujours en baisse entre 0,5 et 2%, 2% étant la variation de Kering. Nous, dans ce contexte-là, eh bien, on ne fait pas grand-chose puisque l'amplitude entre les extrêmes du jour est de 0,40%. Donc c'est extrêmement faible. On essaye toujours plutôt de travailler à l'achat. Et d'ailleurs, on se rapproche du niveau support assez proche, la zone des 7310-15, pour viser de petites variations, dans la mesure où c'est ce que le marché nous offre, des variations de 0,3-0,5%. Donc si on arrive à acheter sur 7310-15, ça sera pour viser la zone des 7345-50, le niveau sous lequel on a buté ce matin. Un petit cran en dessous, on a un support à 7270-75, mais c'est toujours pareil. Il faudra voir en fonction de l'heure, parce que bon, si on y va, on va dire en début d'après-midi, ça va et ce niveau-là reste jouable. Mais si c'est en fin de séance, il faudra être davantage méfiant, dans la mesure où en l'absence de conviction, eh bien, les considérations techniques sont prépondérantes. Donc, il ne faut pas se retrouver à acheter en fin de journée, alors que beaucoup sont en train un peu de liquider des positions à l'approche du week-end. Donc, il faudra faire attention. Nous, on considère que le premier niveau, on va dire, d'alerte assez sérieux, c'est 7170. Donc tant qu'on est au-dessus, on va considérer qu'on a un biais haussier, mais quid du potentiel quand on voit que sur bon nombre d'indices, on est sur des niveaux de résistance assez importants, les 7004 sur le CAC. Qu'est-ce qui peut amener un relais, comme on le disait tout à l'heure, d'autant plus que la situation économique se tend un petit peu partout. Donc on peut s'attendre peut-être à une phase encore de dérive. Le marché fait beaucoup ça ces derniers temps, des phases de dérive. On a quelques jours d'accélération, d'extension, que ça soit dans un sens ou dans un autre, et puis après de longues phases de latéralisation. On est dans cette phase là je pense, où on peut rester peut-être entre 7000 et 7004 pendant un certain temps. Vous voyez, des bornes assez larges au gré de la spéculation, et une spéculation qui est très présente en revanche sur les petites valeurs. Donc ça montre bien aussi, bon, le moral reste correct, mais beaucoup de méfiance, parce que bon, sur les valeurs, on va dire les grosses capitalisations, notamment les valeurs du CAC, les variations sont assez régulières, mais en revanche il y a des jouets spéculatifs qui bougent assez fortement.
Merci beaucoup pour cette lecture. Mathieu Céron, donc, Perceval Finance Conseil, qui nous accompagnait ce matin. Et puis, on vous rappelle que c'est la dernière séance de la semaine, puisque ce sera ensuite le très long week-end pascal avec des marchés fermés et vendredi et lundi. Mais et vendredi et lundi, BFM Patrimoine reste sur le pont. On vous accompagne avec Julie Cohen-Horton pour un best-of de BFM Patrimoine. Merci Mathieu. Bonne fin de séance et de semaine. Donc, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à lire graphiquement cette séance parisienne. Le CAC étale 7316 points et effectivement le luxe qui continue de peser puisque L'Oréal, Hermès, Kering et LVMH trustent les quatre plus fortes baisses de cet indice CAC 40.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin Pierrick Corbel. Bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Vous êtes associé cofondateur de Venn Capital avec Dimitri Boimard. Vous avez donc créé cette boîte il y a près de 3 ans avec une idée bien précise que je vais essayer de résumer. Vous allez me dire si j'ai pas fait trop de raccourcis. Vous glissez entre la gestion active et la gestion passive, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, Cédric, c'est bien résumé. Bon, d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter Venn Capital. Alors, en quelques mots, en effet, c'est une structure que Dimitri Boimard et moi-même avons créée en 2019 avec pour objectif de créer des stratégies d'investissement-action innovantes qui sont uniques en Europe et en effet à la croisée des mondes de la gestion active et de la gestion passive.
On rappelle, la gestion active, généralement, c'est un gérant qui gamberge, qui fouille, etc., et qui crée une sélection de valeurs. Et la gestion passive, ce sont des algorithmes qui, reproduisent, en gros, tel ou tel sous-jacent.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, Dimitri et moi, on a eu des parcours très parallèles. On est passé par des grandes structures de gestion d'actifs, BNP, Rothschild pour Dimitri, Natixis, Sycomore Asset Management me concernant, puis des structures plus entrepreneuriales. Donc on vient vraiment de ce monde de la gestion active traditionnelle et on est convaincu de son bien fondé. Néanmoins, comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, on a fait le constat que l'approche était challengée. Notamment, le symptôme le plus évident, c'est la montée en puissance de cette gestion passive. Et donc, on a cherché une autre approche. Alors, souvent, le phénomène qui est mis en avant pour expliquer le fait que cette gestion active soit challengée, c'est le fait qu'il y ait des frais qui soient prohibitifs. Et donc, ça vient expliquer le manque de génération d'alpha sur le long terme. Alors, c'est un argument qui est mathématiquement irréfutable, c'est-à-dire que plus vos frais sont élevés, moins la performance qui va être rendue à l'investisseur va être importante. Néanmoins, on pense que c'est une vision qui est réductrice, qu'il y a d'autres éléments. Et on pense notamment chez Venn qu'il y a un certain nombre d'éléments qui viennent expliquer le manque de génération, en tout cas la cyclicité de l'alpha sur le long terme, qui est liée à la présence naturelle de biais au sein d'une gestion active.
Qu'est-ce que c'est des biais ? De quoi parle-t-on ?
Ouais, alors, chez Venn, on a identifié 2 grands types de biais. Il y a une première typologie qui est relativement bien identifiée dans le monde de l'investissement, ça va être les biais de style. C'est-à-dire qu'on va souvent parler d'un gérant croissance ou d'un gérant value. Ces gérants vont donc avoir un style qui va être plus ou moins porteur en fonction de l'environnement de marché. Et donc, de facto, ce biais de style va amener une certaine cyclicité dans la génération d'alpha. Un bon exemple, c'est l'année 2022. On avait eu une décennie avant 2022 qui était très porteuse pour les gérants croissance, qui caracolaient en tête des classements. Et 2022, au contraire, ils ont eu des vents de face et donc ils se sont retrouvés à sous-performer massivement. Ça, c'est le premier biais, c'est le biais de style. Il y a un autre type de biais qui, pour le coup, est moins connu. Et c'est amusant parce que finalement, c'est un biais dont nous sommes tous porteurs de ce type de biais. Ça va être les biais cognitifs, les biais comportementaux.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire les biais qui sont liés au fait que nous sommes des êtres humains, en fait.
D'autre côté, un peu mouton de panurge.
C'est plus large que ça. Ouais. C'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de biais qui peuvent être identifiés. Alors, dans le domaine économique et financier, c'est une notion qui est encore assez peu démocratisée pour une raison simple, en fait, c'est que tout le corpus académique de la finance repose sur un postulat assez fort qui est de dire que les agents économiques ou les investisseurs sont rationnels, en fait. Il y a une nouvelle branche théorique qui a émergé depuis quelques décennies, c'est la finance comportementale, et qui vient justement mettre en lumière le fait qu'il y a des biais dans le comportement des investisseurs, que parfois nos jugements sont influencés par nos émotions, et donc on est loin d'être des homo economicus froidement rationnels, on est aussi des êtres émotionnels, et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc c'est un courant de pensée qui est loin d'être anecdotique. Sur les 20 dernières années, il y a eu 3 prix Nobel d'économie qui ont été récompensés pour leurs travaux dans le domaine de la finance comportementale. Et pour donner des exemples concrets donc de biais. Il y en a énormément. Il y a un biais qui est assez connu, c'est le biais d'excès de confiance. C'est-à-dire que si vous interrogez un panel d'automobilistes, vous leur demandez s'ils conduisent mieux que la moyenne, la grande majorité va vous répondre que oui, oui. Alors que statistiquement, c'est juste purement impossible. Oui. Et donc nous, notre point, c'est de se dire que en appliquant cette idée dans le domaine de la gestion de portefeuille, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que un gérant de portefeuille, aussi talentueux soit-il, reste un être humain. Donc il est soumis à ce type de biais, il peut faire des erreurs. Il y a des biais qui peuvent coûter très cher, par exemple, c'est le biais d'ancrage ou d'entêtement, c'est-à-dire qu'on va mettre du temps à reconnaître nos erreurs, et typiquement, une position qui peut s'avérer être un mauvais investissement, finalement bon. On va mettre du temps à la couper.
Donc le problème, entre guillemets, est mis sur la table, mais comment on le traite ? Comment on évite ces biais ? C'est là où votre démarche est intéressante.
Exactement. Alors, donc chez Rennes, en effet, on a la conviction que ces biais sont souvent à l'origine de phases de sous-performance plus ou moins durables. On a voulu développer une approche innovante qui capitalise néanmoins sur le bon sens de la gestion active, hein, parce que c'est une démarche de bon sens à la base, sur l'alpha fondamental qu'elle peut générer, mais en essayant de lisser ce phénomène de biais. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur un concept qui est particulièrement puissant, qui est le concept de l'intelligence collective.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette intelligence collective ? Parce que vous êtes deux, donc effectivement, il y a...
Alors, c'est pas que nous, heureusement. C'est beaucoup plus large, on applique ce concept largement. Pour résumer simplement... Hein, l'idée de l'intelligence collective, c'est assez simple, c'est de dire que si vous prenez un groupe d'individus suffisamment large et diversifié, que vous les interrogez de façon indépendante, toute l'information, toute la sagesse qu'il peut y avoir dans ce panel d'individus va se cumuler, et au contraire, les biais vont se neutraliser, parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes biais, et c'est heureux. Et donc, c'est un concept qui est pas nouveau, loin de là, hein, qui est relativement ancien. Mais si on regarde ces applications modernes, notamment dans le domaine des technologies, il peut être utilisé. Par exemple, Wikipédia, c'est un exemple brillant d'utilisation du concept d'intelligence collective.
Concrètement, dans de la gestion, enfin, ou pratiquement, j'ai envie de dire, dans de la gestion, c'est-à-dire que vous procédez comment ?
Alors... c'est sûr que dans le monde financier...
Qu'il faut quand même qu'il y ait des gérants pour qu'il y ait une foule, entre guillemets.
Exactement. Alors, dans le monde financier, pour les raisons que j'évoquais, c'est un concept qui est encore relativement peu démocratisé. Nous, l'idée sous-jacente à notre approche, c'est de se dire que si on a un bon gérant qui valide un cas d'investissement, certes, c'est déjà un signal qui est puissant, mais qui reste porteur juste de toute sa subjectivité, de tous les biais.
Et on peut avoir des biais.
Ouais, on a des biais. Par contre, si on a un panel de gérants globalement large, diversifié, indépendant, qui valide... même qu'un investissement, là, les raisons objectives à cela, elles vont plutôt avoir tendance à se cumuler, alors que toute la part de subjectivité, elle va être lissée. Alors, pour un investissement action, par exemple, la subjectivité, ça peut être que vous appréciez ou non le produit ou service développé par la société, que vous ayez une certaine sympathie ou une antipathie pour le management. Bref, tout ça, c'est des raisons qui sont globalement subjectives, pas forcément très valables pour pousser le bouton de l'investissement sur le long terme, en fait.
Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, entre guillemets, une idée... d'investissement, vous la soumettez à un panel de gérants.
Non, alors c'est un peu différent. Concrètement, nous, on a développé donc, des stratégies systématiques qui vont capitaliser sur les données publiques de gérants de portefeuille. Donc en fait, on va identifier des gérants fondamentaux très talentueux et on va essayer d'extraire l'intelligence collective de ce panel de gérants en investissant sur des idées qui sont validées par plusieurs de ces experts. Donc c'est en ce sens, en fait, qu'on a construit une espèce d'indice de conviction de gérant, et c'est pourquoi on évoque une troisième voie entre la gestion active et la gestion passive.
Et ça donne de bons résultats ou...
Alors, ouais, merci pour la question, parce qu'on a parlé beaucoup de théorie jusqu'ici, mais dans le monde de
l'investissement. Il faut que ce soit sonnant et trébuchant, quand même.
C'est ça, dans le monde de l'investissement, l'épreuve du feu, ça reste la pratique. Donc, en pratique, on a lancé des fonds en partenariat avec Fédéral Finance Gestion, donc la filiale du Crédit Mutuel Arkéa. On a lancé deux fonds actions qui s'appuient sur nos stratégies, un fonds action américaine, un fonds action européenne. Les fonds ont été lancés fin 2019, donc on commence à avoir un peu d'historique. On a plus de 3 ans de track record et on est globalement assez content des résultats. Si on parle de performance, en termes de performance à annualiser, les fonds ont délivré des performances respectives d'un peu plus de 7% pour le fonds action américaine, un peu plus de 11% pour le fonds action européenne. Donc, mention spéciale pour ce fonds en particulier, le fonds AIS Vensmart Alpha Europe, qui fait à peu près le double de la performance des marchés sur la période en question. Donc, il se classe dans les tout meilleurs fonds européens.
Bon, ben voilà. Si vous hésitez entre gestion passive et gestion active, vous avez peut-être une troisième voie portée par Ven Capital, défendue ce matin par Pierrick Corbel. Merci d'être passé nous voir.
Merci, Cédric.
Et on salue aussi Dimitri Boimard, donc, qui est votre associé dans cette aventure. Exactement. De Ven Capital. Le marché parisien, il est quasi sur son niveau de clôture d'hier soir. On hésite pas mal. 7322 points, on grignote 0,08%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et on répond maintenant à toutes vos questions. C'est notre rendez-vous traditionnel avec aujourd'hui à la baguette Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Vous êtes prêt, Jean-François ?
Ouais, allez-y. Vu comment ça s'est fini tout à l'heure, je ne sais pas si ça va bien se passer.
Oh là 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 là, ne le prenez pas mal. Bon, beaucoup de questions, bien évidemment, mais vous vouliez faire une petite incise, notamment parce qu'on a une nouvelle qui est tombée hier, en provenance de l'AMF. C'est la nomination de Charles-Henri Dovigny, qui est un habitué du plateau aussi, qu'on retrouve régulièrement sur les questions d'épargne, et qui a été nommé au collège de l'autorité des marchés financiers. Et ça vous fait réagir?
Ouais, enfin, c'est pas que ça me fait réagir, c'est surtout que je trouvais que c'était l'occasion de faire passer et d'expliquer un certain nombre de choses aux épargnants qui nous écoutent et d'essayer de leur montrer un peu une certaine cohérence sur la base de ce qu'on fait. Toutes les semaines, je viens en plateau avec, en début de séquence, un coup de gueule où j'ai tendance à m'énerver sur plein de sujets, notamment des sujets de place. Et je pense qu'on a un problème de place sur la place parisienne qui est un problème de représentation des épargnants. Pourquoi ? Parce que les autorités, que ce soit le ministère de l'Économie et des Finances, que ce soit la Banque de France, que ce soit la CPR, le gendarme de la bourse, que de l'assurance vie et de la banque, que ce soit l'AMF, prennent tout un tas de décisions qui ont une influence majeure sur l'argent de Choupinette, sans que finalement Choupinette ou les représentants de Choupinette ne soient intégrés à la table des négociations.
Alors, donc je voulais que Choupinette soit nommé à l'AMF.
Eh bien donc, en pratique, en tout cas, je constate ce dysfonctionnement. Et donc, constatant ce dysfonctionnement, on a mené une initiative. C'était l'été dernier, puisque l'été dernier, le mandat de Robert Ophèle, le patron de l'AMF, venait à échéance. Et si je dois faire un parallèle avec la situation syndicale, on a un peu fait une intersyndicale des gens qui pensaient à peu près comme ça. Et on avait pris la décision de présenter un candidat à la présidence de l'autorité des marchés financiers. Donc, on avait fait une communication publique. Le candidat, c'était Guillaume Prache, qui est délégué général de Better Finance. Et en pratique, donc il avait été auditionné comme les autres candidats. Il avait été présélectionné, donc il avait été dans la shortlist qui avait été remis au ministre. Et ça, pour nous, c'était super important, parce que quelque part, ça mettait le ministre de l'Économie et des Finances face à une décision politique. Est-ce que l'AMF, qui est une autorité qui a pour fonction première la protection de l'épargne, doit ou ne doit pas être dirigée par un représentant des épargnants? Donc le ministre avait répondu non, puisqu'il avait choisi une autre candidate. Juste après, nous avions eu la démission avec fracas de Thierry Philipponin. Thierry Philipponin qui n'a pas démissionné sous l'argument de dire que les épargnants n'étaient pas représentés, mais Thierry Philipponin qui a démissionné sur l'argument de dire que l'AMF n'était plus indépendant. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait un poste qui était en train de se libérer au collège. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a continué à bosser pour tenter de faire bouger les choses dans le système. Et on a donc écrit au ministre pour lui présenter trois candidats. Et dans ces trois candidats, il y avait Charles-Henri Dovigny qui a la caractéristique d'être notamment le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Donc, réponse, aujourd'hui, l'information est tombée, l'arrêté a été publié le 5 avril, un arrêté du 31 mars qui annonce la nomination de Charles-Henri. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais disons-le très clairement, quand on part d'une candidature à la présidence de l'AMF et qu'on atterrit sur une nomination au collège, on se dit que c'est un bon début, mais que dans mon esprit, ça ne peut être qu'un début.
Donc il faudra qu'il y en ait d'autres.
Vous m'avez compris, le prochain renouvellement du collège, c'est en janvier 2024.
Bon, ben voilà. Les listes de candidats sont à présenter rapidement. Bon, allez, on passe aux questions après cette petite incise. Question de Laurent, n'y a-t-il pas une possibilité pour le gouverneur de la Banque de France de toucher au livret A en mai ?
Si, il y en a une, mais en pratique, je vais vous dire, je pense qu'il ne l'utilisera pas. Et là encore, pardon, mais finalement, je vais rebondir sur le sujet précédent. Le gouverneur de la Banque de France, deux fois par an, au mois de janvier et au mois de juillet, il doit appliquer une formule de calcul pour savoir si pour connaître le nouveau taux du livret A et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire le LDDS et le LEP notamment. Donc, ça, c'est la règle. Deux dates, janvier et juillet. Et quand il applique la formule, le gouverneur de la Banque de France a la possibilité, dans ce cas-là, s'il y a application de la formule, personne ne peut rien dire, on applique la formule. En revanche, le gouverneur de la Banque de France peut déroger à la formule. Et vous savez, aujourd'hui, on est en pleine manif retraite, donc tout le monde est attaché à ce qui va se passer le 14 avril avec la décision du Conseil constitutionnel, et tout le monde ne cesse de dire qu'on est dans un état de droit. Donc, regardons ce que nous dit le droit sur les marges de manœuvre du gouverneur. Et le droit nous dit quoi ? Le droit nous dit que le gouverneur peut déroger à la règle, et il prévoit deux cas. Le premier cas, c'est des circonstances exceptionnelles, sans autre précision. Et le deuxième cas, c'est lorsque le taux défini conduit à ne pas protéger le pouvoir d'achat des épargnants. Donc, on voit bien, si je raisonne dans ma logique de représentation des épargnants telle que je vous l'évoquais tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la nomination de Charles-Henri Daugigny, le premier cas, la décision du gouverneur, elle peut être favorable ou défavorable aux épargnants. En revanche, dans le deuxième cas qui lui permet de déroger à la règle, c'est clairement écrit noir sur blanc dans les textes, ça doit être favorable aux épargnants. Que s'est-il passé au mois de janvier dernier? Eh bien, au mois de janvier dernier, le gouverneur de la Banque de France applique la formule de calcul qui l'amène à 3,3%, et il prend la décision de ne sortir qu'un taux de 3% pour le livret A, en prétextant des circonstances exceptionnelles. Donc, il utilise le premier moyen qu'il a à sa disposition.
D'accord.
Or, si on regarde en pratique, il n'y a pas de débat. Lorsque on se trouve lors de la prise de décision au mois de janvier dernier, les deux arguments sont valables. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les circonstances exceptionnelles, moyen numéro un, mais vous pouvez également utiliser le fait qu'on ne maintient pas le pouvoir d'achat des épargnants, donc la situation qui est favorable aux épargnants. Et en pratique, le gouverneur de la Banque de France, il fait un choix politique qui consiste à dire, finalement, les engagements envers les épargnants, c'est pas mon sujet principal, mon sujet principal, c'est l'environnement macroéconomique. Donc, partant de ce principe-là, ça c'est la lecture du gouverneur au mois de janvier. On est maintenant au mois d'avril, et au mois d'avril, il n'y a pas de révision systématique de calcul du taux, ouais. Il y a une possibilité si jamais le gouverneur le juge utile.
D'accord.
Naturellement, si cette possibilité elle est utilisée, ça sera en faveur des épargnants. Donc, je considère que le gouverneur a pris une décision au mois de janvier qui était défavorable aux épargnants. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, trois mois plus tard, on serait dans une situation qui est une situation favorable aux épargnants. Donc, en pratique, oui, il peut le faire. Deux, je n'y crois pas. Et je vais même vous rajouter un troisième élément pour être clair et pour être très précis.
Allons-y.
J'aimerais pas être à sa place.
Ah.
Parce que je le critique gentiment. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, dans le monde de l'épargne, toutes les problématiques, finalement, auxquelles on est aujourd'hui confronté face à une situation que l'on n'a pas prévue. C'est une situation, la situation dans laquelle la violence de la remontée des taux d'intérêt est en pratique une situation qui n'a été anticipée par personne et qui pose des problématiques. On a vu depuis le début de l'année 20 milliards de collectes sur le livret A. Donc, on a eu aujourd'hui, et moi je m'étais planté dans mon analyse parce que je pensais que les taux des fonds en euros montraient moins que ça, mais le taux du fonds en euros, il est aujourd'hui en moyenne à 2%, et on va être très clair, à 2%, il n'est pas compétitif par rapport à plein de placements, le livret A certes, mais également les comptes à terme et tout ça que proposent les établissements bancaires. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui, alors qu'on est dans un environnement de remontée des taux d'intérêt, un risque que les gens sortent du fonds en euros,
bien sûr,
pour aller ailleurs. Et si on sort du fonds en euros alors qu'on a des moins-values latentes, ça va poser problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on voit notamment sur des clientèles de gestion privée, etc., des assureurs qui font des bonus, qui font des offres en vous disant « on va vous garantir des taux à 3,5%, etc. » pour que l'argent ne sorte pas. Donc aujourd'hui, on va le dire très clairement, moi je peux râler en disant en termes de défense des épargnants, je considère qu'on est maltraité. Je peux également dire que la situation est aujourd'hui compliquée et quelque part, la crise bancaire nous arrange bien. Parce que la crise bancaire, elle a eu un effet, ça a entraîné une baisse des taux longs, une baisse des taux à moyen terme, et donc quelque part, ça diminue la pression sur la surrémunération qu'obtenaient ces derniers temps les liquidités.
Allez, on passe à la question d'Alice qui vous a entendu tout à l'heure parler longuement du portefeuille marché gagnant, mais sans en donner la performance. Et elle dit Jean-François Fillat n'en a pas dit un mot.
Eh bien, Jean-François Fillat, avant de répondre à Alice, il va répondre à Cédric Decoeur sur la conclusion de tout à l'heure, genre vous votez et c'est Jean-François décide. Et pardon Cédric, mais je vais le faire. Je vais vous dire, je vais le faire de manière. J'ai écouté l'intervention de Pierrick Corbel il y a de cela un instant et je vais le faire par rapport à ça. Je vais le faire par rapport à ça et je vais vous dire pourquoi. Pierrick nous a dit quoi tout à l'heure? Pierrick, il nous a dit que dans les caractéristiques des individus, c'est que dans ce qui générait la valeur ou ce qui ne générait pas la valeur, il y avait un certain nombre de biais. Oui. Or, la réalité des choses, et en fait, ce que j'ai développé dans la méthodologie qu'on a mis sur le portefeuille de marché gagnant, en fait, on a dit la méthodologie, c'est marché gagnant qui l'a défini, et la sélection des valeurs, c'est des tiers qui la définissent. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un investisseur particulier, que vous regardez des trucs et que vous portez toute la responsabilité, en fait, vous amplifiez vos biais comportementaux. Là-dessus, j'en retombe sur une méthodologie que j'avais lorsque j'étais le patron de la rédac de Mieux vivre votre argent. Mieux vivre votre argent, il y avait une valeur qui était recommandée par moi qui s'appelait la valeur du mois. Et comment je bossais avec la rédaction boursière? Je leur disais, écoutez, vous venez me voir, vous traitez les dossiers, vous choisissez des valeurs. Vous m'en présentez trois, on débat sur ces trois valeurs, on discute d'un point de vue collégial, etc. On en choisit une, vous me donnez l'argumentation et in fine, c'est moi qui fixerai le prix d'achat. Et en pratique, en faisant ça, on répartit, je dirais, la prise de risque. Quand vous avez envie d'acheter une valeur, vous êtes super sûr de votre coût. Bon. Vous dites, ouais, c'est génial, je vais en prendre. Donc moi, je suis désolé, je dis la chose suivante. Quand aujourd'hui, on me présente Total, je n'ai rien contre Total, et je pense que Total rentrera dans le portefeuille. Je dis, attention, j'ai un problème sur l'équilibre de mon portefeuille. Bon, et là, maintenant, je vais répondre à Alice. Pourquoi j'ai un problème sur l'équilibre de mon portefeuille?
On n'a plus le temps.
Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus le temps?
Non. Il faut la perf.
La perf, grosso modo, on est à moins 1 et des poussières sur le mois, donc on est en légère sous-performance, alors qu'on était au record historique le 3 mars, et donc il y a un retournement de marché, et on est en train de mener une analyse très précise de la performance du portefeuille, parce que justement, on va prendre une décision qui va être importante, et je veux pas que ça nous plombe pendant 6 mois.
Merci beaucoup Jean-François Filiatre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour continuer à répondre aux questions d'auditeurs. Dans un instant, c'est 90 minutes business avec Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire du jour.
On va revenir sur la visite de 3 jours d'Emmanuel Macron en Chine. Il a rencontré Xi Jinping. C'est encore en cours. Les premiers contrats tombent. Airbus va doubler sa capacité de production d'avions en Chine. On va en parler avec Jean-Baptiste Thuet, avec Agathe Lambray, avec Jean-Marc Daniel. On parlera aussi d'Orpi qui va lancer son pacte anti-inflation pour débloquer le marché de l'immobilier. C'est Marie-Cœur de Roy qui va nous expliquer ça. Et puis notre invité, ce sera François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Un rebond des immatriculations de micro-entreprises ces dernières semaines. On va revenir sur ce phénomène avec lui vers 12h15.
C'est à suivre dans une poignée de secondes. 90 minutes business. Le marché, lui, grignote 0,23%, 7332 points. N'oubliez pas, demain, jour férié en bourse, il n'y aura pas de cotation. Pareil lundi, mais BFM Patrimoine sera quand même au rendez-vous. Vous retrouverez Julie Cohen-Horton demain matin pour un best-of. Moi, je vous retrouverai pour une nouvelle partie de ce best-of lundi matin et en direct mardi. Très bon week-end, Pascal.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.